1, 2, 3, c'est parti. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec, ça fait bizarre de dire ce nom, avec Thierry Henry. Pour ceux qui regardent la vidéo, je crois qu'ils vont, ça sera un petit peu, un petit choc. Donc, Thierry, c'est un profil assez particulier qui est un entrepreneur multi-récidiviste, j'ai envie de dire. Et déjà, si Thierry est là, c'est pour nous partager c'est quelque chose qu'on a un petit peu concocté comme ça en off. On s'est dit que ça pouvait intéresser nos audiences respectives. L'idée serait de parler de 10 petites choses, 10 choses qui ne demandent aucun talent pour réussir. Mais avant, on va essayer déjà de demander à Thierry de se présenter. Bonjour Thierry, comment est-ce que tu te présentes pour la première fois lorsque tu rencontres
Salut à tous
quelqu'un?
salut à tous les débrouillards. Non, c'est moi, c'est donc Thierry hashtag Henry. Je fais toujours esprit de racheter le hashtag parce que personne ne l'a, donc c'est moi qui l'ai. Quand t'as un nom et prénom qui est si connu, qui est si imposé, tu peux rien dire, t'es obligé de décaler. Tu dis, je laisse ça au plus grand joueur buteur de tous les temps en France en tout cas pour l'instant. Et donc je me prénomme dans mon podcast Thierry hashtag Henry pour le podcast L'entrepreneur à la stase. Donc, pour le parcours, tu m'as demandé de te présenter. Donc, moi, comme je te dis, j'avais concocté un truc pour nous, un article que je voulais faire sur mon podcast, sur ma vidéo, sur les 10 actions qui vont un peu reprendre mon parcours, hein, parce que mon parcours est un peu chaotique. Mais comme tu le sais, voilà, le but, c'est d'être passionné, de faire ce que tu as envie de faire. Tu peux faire toute ta vie dans une carrière et être dégoûté. Moi, tu peux avoir des hauts et des bas. Tu sais qu'une création, c'est jamais linéaire. Souvent, ce qu'on voit à la télé, c'est quand la personne a réussi. Et avant ça, il y a souvent plein de galères. Et ça, il faut en parler. Et souvent, on n'en parle pas assez. Donc, pour me présenter, donc, Thierry hashtag Henry, j'ai 44 ans, 3 enfants, je vis donc en Île-de-France, en Essonne pour être précis. J'ai, comme toi, un podcast depuis bientôt 2 ans, bientôt 100 épisodes. J'en ai fait un avec toi qui était super. Donc, je mettrai le lien
Je
pour que les gens
profite
voient.
pour dire que c'est un podcast qui sera disponible sur ton site. On va mettre le lien, bien sûr, en description.
Ouais.
Et aussi sur mon site, je vais le réutiliser, bien sûr, avec ton autorisation, un petit peu comme une sorte d'épisode bonus pour faire un petit peu une sorte de bilan d'une année de podcast que j'ai fait avec plus d'une soixantaine d'interviews. Donc, je te remercie encore pour ça. On va mettre aussi le lien de cet échange-là en description, comme je disais tantôt. Yes. Donc, je te laisse
Ok.
continuer.
Donc, pas de souci. Donc, je vais essayer de revenir au début. Donc, moi, j'ai grandi en banlieue dans le 92, dans le nord du 92, Villeneuve-la-Garenne, VLG pour ceux qui connaissent. Une vie classique, hein, avec des hauts et des bas. La banlieue, c'est pas facile. Mais bon, moi, l'avantage que j'ai eu, c'est que j'étais passionné par le sport. Donc, j'ai fait du foot comme tout le monde. Puis après, donc, à 14 ans, 13-14 ans, je me suis mis au basket. J'étais grand, donc je suis toujours grand, j'ai 1m92. J'ai joué donc à Villeneuve. Tout s'est plutôt bien passé. On m'a demandé de venir jouer à Levallois, qui est un grand club, même si maintenant ça ne l'est plus. Et donc là, je fais 2 ans et demi, 3 ans, et je rate la marche du professionnalisme. Ça veut dire que j'étais pas à ce qu'on appelle en centre sportif. J'étais pas logé, donc je devais aller en cours, prendre le sac, aller au sport tous les jours, même si je n'allais pas tous les jours. Revenir, donc je travaillais à 11 h le soir, enfin une vraie galère. Et j'ai pas tenu le coup. Et ça m'a donné une première leçon de ne jamais abandonner. Parce que quand j'ai vu qu'ensuite, 2, 3 ans après, tous mes potes sont devenus pros, enfin, 3/4 de mes potes sont devenus pros, dont 3 qui ont fait l'équipe de France. Donc, tu te dis, ah, merde, j'ai raté un truc. Mais après, c'est vrai que, bon, on ne peut pas rentrer dans l'histoire, je ne vais pas faire trop long. J'étais vraiment plutôt solo, pas vraiment trop encouragé. Mes parents s'en foutaient de ce que je faisais. Eux, tu connais les parents affrontillés, bosse et ferme ta bouche. Voilà, réussis les études, le reste, ça ne veut rien dire. J'ai pas eu un père ou une mère qui m'a dit, voilà, pousse-toi pour réussir le sport. Parce que bah, c'est logique, à l'époque, c'était peut-être pas aussi
C'est
rentable.
pas
Ou
sexy.
pas...
Chez nous, c'est
En
même
plus,
un
c'est vrai
peu
qu'il peut.
voyou, quoi. À l'époque, hein, maintenant, ça va parce qu'il y a plein de modèles, mais chez nous, c'était plus vu comme des trucs de voyous, tu vois.
Et en plus, tu peux te
Tu...
blesser. C'est vrai que moi, j'en ai connu plein qui se blessent et tu peux te blesser et ensuite, tu n'as pas de diplôme. Donc,
pas
le but, c'est de faire les
de
deux. Ce
secours.
n'est pas de faire qu'un seul.
Yes.
Donc, j'ai plein d'amis qui sont devenus pros. Thierry Zig, Vincent Mazin, pour ceux qui aiment le basket. Il y en a encore plein d'autres dont j'ai oublié. Par exemple, j'ai même croisé, quand je jouais, le premier joueur qui a joué en NBA. Olivier Saint-Jean, qui a changé son nom en nom musulman, j'ai oublié le nom. Ouais, Tarek Abdul-Ouad, pour ceux qui ont mon âge, ils vont comprendre. Donc, on oublie cette période-là. Donc, je me suis dit, bon, merde, j'ai plus le sport pour réussir, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, très tôt, j'ai commencé à l'entrepreneuriat. Donc, j'ai commencé à lire des livres de développement personnel. En plus, j'avais
En
plein
ce
de soucis
moment-là,
de.
qu'est-ce que c'est quoi? Tu étais étudiant ou
Là,
t'étais...
j'arrête, j'avais 18 ans, 19 ans. Donc, en plus, j'étais. Voilà, ça tombe bien que tu parles de ça. J'étais très mauvais à l'école. J'étais pas
Ah,
bête,
ça fait
mais
un point
j'étais
en
pas.
commun.
Oui, mais j'ai quand même actuellement un bac plus 4, tu vois. Comme quoi, comme tu peux te rattraper. Et même si, bon, c'est une parenthèse, moi, je ne suis pas vraiment pour l'école. Hein. C'est bizarre, mais bon, là, pour moi, l'école, t'apprends juste à lire et à compter. Après, le reste, c'est que de la dôme. Mais bon,
Un
parenthèse.
gros débat, hein. Gros débat.
Gros
T'en as
débat.
des profils comme ça qui ont poussé, qui sont allés très très loin et qui font des choses merveilleuses et qui te disent que pendant les années d'études, elles n'ont rien appris. Et tu as des personnes du même statut, du même level qui te disent tout le contraire. Mon associé, par exemple, il a plein plein de diplômes, il a fait toutes les grandes écoles, il a fait HEC,
Ouais, mais HEC,
Paris,
moi, je
il
les
a
mets à
fait, tu
part.
vois.
HEC, je les mets à part. Tu vois, là, c'est différent parce que c'est une
Et
école qui a déjà l'esprit
mais
entrepreneurial.
justement, lui, c'est le contraire. Il dit, mais il a même fait une vidéo là-dessus qui a beaucoup fait polémique. L'arnaque des grandes écoles de commerce, tu vois, je crois que la vidéo a plus de 70 000 vues sur YouTube. Et là, tu as des professeurs qui viennent comme ça, qui disent, non, en fait, il y a une grosse différence entre des personnes qui font les grandes écoles et tout. Ouais, mais c'est une grosse, grosse, grosse. C'est un gros débat, en fait. Mais là, on parle de toi, de ton approche à toi, ton expérience à
Non,
toi.
mais
Et ça se justifie, tu vois.
on pourra en reparler parce que moi, après, je suis revenu dans un. Enfin, là, on va faire un grand bond.
Yes.
Après un certain nombre de parcours, je suis revenu à l'école. Un an, parce qu'en plus, la vraie raison, c'est que je voulais éviter le monde du travail. J'ai très bien compris. Moi, toute ma vie, c'est bizarre. J'ai toujours voulu le monde du travail. Le monde du travail, j'ai compris très tôt que ce n'était pas pour moi. Je le savais déjà.
Comment
Pour
tu
moi,
as su?
c'était la
Est-ce que tu as
prison.
fait des stages ou des petits trucs comme ça,
Mais
là où tu as eu un premier choc, tu as dit,
je
wow, ça, c'est pas pour
vais
moi?
essayer de finir dans la continuité. Ça va être compliqué. Parce que, bah, comme dit, j'ai 44 ans, donc il y a du parcours, malheureusement, ou heureusement. Et donc, je crois que la question que tu m'as posée, donc, bah, 19 ans, j'ai raté le basket. Je me dis, merde,
C'était
qu'est-ce que je
plus,
vais
la question
faire?
c'était plus si en parallèle, lorsque tu as commencé petit à petit à te lancer dans l'entrepreneuriat, est-ce que tu avais en parallèle c'était tes années d'études ou tu es revenu progressivement en études, tu as fait
Non,
une
non,
commission?
non, pour être précis, donc 19 ans, donc je passe le bac. Tout le monde m'a dit, tu l'auras jamais, je l'ai eu. Parce que je suis pas. Non, parce que, mais techniquement, je n'étais pas un gars de scolaire, même si je ne suis pas stupide. Donc, et j'ai eu quasiment toutes les matières, à part. En plus, cette année-là, je me blesse. Et c'est comme ça que j'arrête le basket, parce que je me blesse. Je me tords la cheville dans un tournoi. Et mon club de basket devient ce qu'on appelle semi-pro. Il crée un centre de formation. Et moi, je ne peux pas rentrer dans son centre de formation. Je vais rentrer dans son centre de
Ouais, tu es
formation, je ne suis pas
blessé, ouais.
rentré. Je suis rentré un an après. Bon, après, j'ai fait des conneries, j'ai abandonné. J'avais du mal à lier le travail et l'école. Et on n'arrête pas de me dire. Le sport, tu n'y arriveras pas, ça. Et j'ai fait une bêtise. Donc, c'est le passé. Tu perds pas de temps. Voilà, tu es responsable. Et donc, ben, je continue. Je passe le bac. Ensuite, je passe le BTS. Donc, pareil, j'ai un niveau BTS. J'arrive pas. En plus, je suis à l'opposé de Paris. Donc, j'habite Villeneuve et je vais à l'école à Vitry. Donc, ceux qui connaissent, je mets quasiment 1h30 pour aller à l'école, ce qui est stupide, et retour. Donc, bon, j'ai fait en quoi? Comme quoi, la vie, c'est une question de choix. Donc, et comme j'avais un très mauvais niveau, je venais de la mauvaise école d'Île-de-France. J'ai eu du mal à être accepté dans les bonnes écoles. Donc, j'ai dû aller à Vitry, voilà, qui était celle où on m'a accepté. Donc, j'y vais, je fais mes études. Bon, le niveau est moyen. Je comprends très bien. J'apprends des choses, en fait, quand je parle en mal de l'école. J'apprends des choses. Mais après, il y a ce qu'on apprend à l'école et ce qu'on peut réutiliser dans le monde du travail. Voilà.
Yes.
Et donc, moi, comme j'avais déjà une vue où j'allais réussir en basket, je ne me suis pas mis en esprit de travailleur. Quand tu vas à l'école classiquement, une personne normale, elle va à l'école pour dire qu'elle va être salariée. Moi, comme je devais être basketteur, je voyais la vie en rose. Je me dis, mais je vais sortir de ma banlieue et je ne vais pas travailler. Et donc, quand il a fallu me remettre aux études, je me suis dit, après, c'est simple, tu regardes, tu dis, qu'est-ce que tu peux faire dans la vie? Du rap, du sport
Du rap.
ou de l'entrepreneuriat. Moi, je voyais pas le truc où je vais rentrer dans une boîte et je vais grimper. Ça n'a pas de sens. Tu mets 20 ans, je suis pressé, je suis l'esprit entrepreneur. Je me suis dit, je veux le cash maintenant, je veux réussir maintenant. Et puis j'avais aussi des bons modèles. Je commençais déjà à lire un petit peu. À l'époque, je ne parlais pas anglais. J'ai commencé à lire beaucoup de livres de développement personnel. Pas les classiques, hein, mais j'en ai lu plein, plein d'autres. Je me suis intéressé très rapidement vers 20 ans, 20 ans à la bourse. Donc j'ai commencé à miser en bourse assez tôt.
Tes propres fonds, j'imagine, quelques petits fonds.
Non, oui, mes propres fonds, parce que j'ai très tôt commencé à épargner. J'étais déjà. Certains disaient radin, moi je disais, non, moi je suis économe, je ne dépensais pas bêtement. Tout ce que je pouvais gagner, parce que même quand j'étais au basket, ils donnaient de l'argent pour payer tes transports. Je grugeais et je gardais l'argent pour faire autre chose avec, tu vois. Donc je n'allais pas acheter ni des baskets. Non, je gardais déjà mon argent. Et c'est même là, voilà, où ça tombe bien que tu parles de ça. À un moment, je mets mon argent à la banque et j'épargne. Et je pensais aller gagner beaucoup. Il y a un moment, un an après, je regarde mes comptes, je m'attendais. Je me suis même embrouillé avec la bancaire, je me rappelle. Je me dis, mais attendez, tous les mois, je mets 200, 300. Et elle me donne le truc et je vois, j'ai gagné, allez, 3 ou 4 euros. Je me dis, c'est quoi cette connerie? Elle me dit, oui, mais vous êtes.
C'était dans un livret A ou quoi?
C'était un truc d'épargne à 2 balles où tu gagnais 2,5. Je me suis dit, mais déjà, j'ai compris qu'il y avait un problème. Tu vois, j'ai compris qu'il y avait un problème.
Le système, que le système, enfin, tout le système avait un problème, quoi.
Non, mais disons que tu réalises vite, c'est pas tu perds ton temps, tu testes. Moi, c'est toujours ma nature, je teste. Voilà, je plonge dans l'eau et je vois après. Donc, j'ai commencé à épargner. Je me suis dit, mais c'est nul. Si je fais des calculs, je vais jamais gagner avec ça. Donc, j'ai résilié mon compte, j'ai changé de banque. Même si, bon, en fin de compte, j'allais ailleurs, ça n'allait pas changer, parce que ça restait une banque. Donc, j'ai cherché, commencé à chercher les choses. Donc, j'ai fait de la bourse. À l'époque, en plus, c'était en 2000-2001, c'était pas facile, hein, c'était pas comme maintenant. Et en plus, voilà, j'ai commencé à miser. J'ai commencé à gagner un petit peu. Et malheureusement, elle est arrivée le 11 septembre 2001. Donc, tout a plongé.
T'as pété,
Et heureusement, je lisais les bons livres comme là, ben, un livre que j'ai, ce qu'on appelle The Money Master de John Trent, qui est un livre très connu. Je l'ai lu et d'autres livres que j'ai lus qui m'ont appris à mieux investir. Et donc, je me renseignais.
mais
Donc,
pour
je n'ai
la
pas
bourse, est-ce
vendu.
que tu t'es formé avant? C'était toujours dans des bouquins ou là
Pas trop, parce
c'était.
que j'allais à l'époque sur Boursorama et d'autres comptes. Donc, j'ai commencé à regarder, j'ai commencé à lire un petit
Voir
peu.
ce qui se faisait, ouais, ok.
Donc, j'ai misé. Et donc, j'ai commencé à apprendre par moi-même. J'avais les sites et tout ça. Et heureusement, je n'ai pas vendu, j'ai attendu, parce que tout est tombé après le 11 2001. J'ai racheté des actions, parce qu'elles étaient basses, donc ça faisait une moyenne. Et à un moment ou à un autre, allez, 7-8 mois après, tout est remonté, et j'ai commencé à gagner un peu. Donc à l'époque, c'était des trucs que tu n'utilises même plus. Enfin, moi, Nokia, France Télécom, quand tu as une action spéculative, et d'autres actions comme ça. Donc ça m'a permis de voir, mais j'ai vite appris qu'en fin de compte, pour vraiment devenir un bon en bourse, il
Tout un
faut
métier.
faire ce qu'on appelle OPM, utiliser l'argent des autres. Et donc je me suis dit, bon, la bourse, ce n'est pas pour moi, en plus c'est risqué. J'ai pas assez de cash pour pouvoir faire du vrai investissement. Et à l'époque, il n'y avait pas ce qu'on appelle les actions à dividendes. Je ne connaissais pas tout ça, en fin de compte. Je n'avais pas toutes ces informations d'investir sur les actions à dividendes. J'avais pris des connaissances, mais pas assez pour le faire. Maintenant, ce que je connais maintenant, si je le savais à l'époque, ben, j'aurais fait de l'ETF, j'aurais fait plein de choses que je connais maintenant, mais je ne le savais pas. Donc voilà. Pour essayer d'avancer, parce que là, la présentation est assez longue.
Pas de souci.
Donc, ben, j'ai un niveau BTS. Je commence à faire ce qu'on appelle de la téléphonie, des enquêtes. Donc, directement, je le fais, mais je me dis, oh là là, j'ai commencé à gagner.
Ces
Mais
enquêtes,
mon...
c'est quoi ça? Enfin, moi,
J'étais,
c'est
en
pas
fin de compte,
connu.
téléenquêteur. Téléenquêteur dans la rue, j'ai arrêté les gens, je leur faisais des enquêtes.
Pour des sondages, un petit peu comme les
Sondage,
sondages
voilà. Donc,
télé, là.
j'ai commencé sans avoir le SMIC. Déjà, j'avais un esprit où je n'avais pas peur de prendre un salaire, parce qu'en fin de compte, j'étais payé à l'enquête. Tu vois? Et j'ai même un gars, je me rappelle toujours, m'a dit, je faisais des enquêtes en télémétrie. C'est vrai que j'avais beaucoup de refus. J'allais chez les gens, je prenais un peu de temps, j'ai un ordinateur. Et
T'allais
quand j'ai
sonner chez
dit,
les gens pour
j'allais chez les gens, et il m'a dit, et quand j'ai arrêté, après 3 jours, il m'a dit, mais tu sais même pas que tu as du talent. Et c'est marrant parce que 3-4 ans après, je fais du porte-à-porte et là, je fais un carton. Mais à l'époque, c'est vrai que moi, et même tu ne vois pas maintenant, j'ai toujours été bègue. De nature, je suis bègue. Donc ce qui fait que quand j'arrivais, j'avais du mal, quoi. Et je suis introverti de nature. Donc j'y allais parce que je suis quelqu'un d'ambitieux et de motivé, mais je galérais quand même. Donc c'était
C'est
cool
la
parce que
meilleure
j'ai.
école, ça, franchement.
Et t'as tout compris. Et c'est marrant, c'est en lisant Robert Kiyosaki quelques temps après qu'il le dit que la meilleure école de vente, c'est le porte-à-porte, que je me suis remis dedans, tu vois. Donc pour faire un bond, donc j'arrête, ce qui est encore une bêtise. Je repars en téléphonie. La téléphonie que j'ai horreur, j'ai horreur de la téléphonie. C'est vraiment un truc que j'aime pas. Surtout ce qu'on appelle la pure télé-enquête, où tu as un truc que tu répètes, la télé-enquête.
Ouais, avec ton script et tout.
Je fais ça un moment, ça me saoule. En plus, l'ambiance du plateau, du monde, ça, moi, je
Et
pense que
là,
j'y vais pas, quoi.
c'était toutes sortes de produits que
Non, à
tu
l'époque,
mettais en avant ou tu t'es
je
focus
travaillais
sur.
pour France Télécom. C'était non, un truc qui Ola, je crois, c'est Ola. C'est un truc qui n'existe même plus avant qu'il passe Orange. Et donc, je fais ça un an. Je ne supporte pas l'ambiance du plateau. Je m'embrouille avec tout le monde parce que j'ai une nature peut-être qui ne rentre pas dans le groupe. Donc, je m'embrouille avec tout le monde dans le plateau. Et ce qui fait qu'un an, quelques temps après, je pars à l'étranger. En 2002-2003, je pars à Londres. Parce que je me suis dit, la France, je ne supporte pas la
Au
France, j'aime pas
fief.
l'esprit. Voilà. Et je vais à Londres pour apprendre l'anglais. Parce que je commençais à lire certains livres Ebony, tout ça, plutôt que le côté afro-antillais, afro-américain. J'essaie de voir parce que ce que je ne voyais pas en France. Toi-même, tu connais, hein, tu regardes la télé, tu vois des gens qui ne te ressemblent pas. Donc je me suis dit, j'ai besoin de me rapprocher, en fin de compte, d'une communauté qui n'est pas que je ne vois pas en France. Et
Ouais, c'est vrai
je
qu'il y
vais
a
à
une grosse
Londres.
différence quand même entre les Gaulois et ceux à quoi on ressemble, c'est pas trop trop.
Ben surtout quand tu vas à Londres, après, c'est leur hypocrite, ils ont les quotas. Donc dès que tu vois une émission, tu as toujours quelqu'un qui est donc de type européen et un affrontillé. Et qu'en France, tu n'as pas ça. Donc c'est peut-être hypocrite, mais au moins quand quelquefois, tu te vois, donc tu sais qu'on est souvent,
T'identifier.
on se représente. Voilà, on veut s'identifier. Et toute ta vie, tu regardes, même maintenant, tu regardes la télé, tu vois pas de gens qui te ressemblent, ni des gens qui sont maghrébins, ni des Chinois. Tu te dis, mais en fin de compte, on n'existe pas. Donc, c'est un peu bizarre. Donc, bah, je vois ça, je me dis, bon, je suis à Londres, je suis plutôt content. Je ne parle pas un mot d'anglais, mais je suis au bac, au BTS, j'ai tout eu sauf l'anglais. Donc, je vais à Londres, je ne comprends rien, je suis perdu. Heureusement, je tombe sur un français.
En plus, ils ont un anglais un petit peu particulier, un temps un petit peu...
En plus, voilà, c'est vraiment spécial à Londres. Et donc, ben, je tombe sur chez une personne qui est plutôt cool. Bon, je suis loin de Londres, mais je paye quand même assez cher. Et comme je ne parle pas anglais, donc au début, je commence par la plonge. Même pas par la plonge, qu'est-ce que je dis ? Je commence par... Je faisais des boulots en cuisine parce que je ne parle pas anglais, donc je ne peux pas servir les gens, je ne parle pas anglais. Donc, et pourtant, j'avais un niveau BTS.
Un peu comme les Pakistanais et les Indiens dans les cuisines en France.
Et là, j'ai commencé à comprendre les étrangers. Je me suis dit, mais voilà, dans quelle situation je suis. Moi, même si j'étais en Europe, donc j'avais quand même des papiers et tout, mais voilà, je repars à zéro dans un pays, je ne connais rien, j'arrive tout nu, juste parce que je veux apprendre la langue et je veux sortir de l'esprit franco-français. Et donc, ben, heureusement, je bosse bien. Je lis beaucoup de bouquins. C'est un prof que j'ai eu, j'ai commencé à faire 2-3 cours au début, il m'a dit, t'embrouille pas. Prends un bouquin, si tu ne comprends pas, lis-le du début à la fin. Parce qu'au début, j'avais pris Harry Potter qui était à la mode à l'époque. Pourtant, j'aime pas Harry Potter. Chaque fois, je prends une page et je n'arrive pas à avancer parce qu'il y a trop d'images dans ce type de bouquin. Il m'a dit, prends un livre qui va t'intéresser. Et je prends le livre de Warren Buffett, la finance qui m'intéressait déjà. Et je lis un livre de finance et là, je dis, waouh. Tu vois, même si je ne comprenais pas tout, ça rentre. Et je le relis. Des fois, je mets un peu les mots. Et à la fin, je le finis en une semaine. Et il m'a dit, relis-le encore. Et après, donc, je mets quelques mots des fois en anglais au crayon. Et à force, je suis dans le pays, je parle. Au début, je reste comme beaucoup de gens qui font l'erreur, je reste avec les Français. Et après, je me dis non, je suis parti de la France pas avec les Français. Donc, je déménage où je suis et je vais habiter chez une Anglaise que j'ai rencontrée dans la rue. Pourtant, je suis timide, mais bon, bah, j'ai dragué un petit peu, ça m'arrive. On devient un bon ami. Elle m'a dit, viens vivre chez moi. Je suis OK. Donc, je viens vivre chez elle.
Dans les commentaires, là, ils vont... Prévenir sur les clichés avec les Antilles.
Non, en plus, on reste amis, il ne s'est rien passé. C'est, en plus, je lui dis un grand bonjour. En plus, c'était une histoire de malade. Une Ivoirienne qui est arrivée à Londres à 9 ans, qui a eu des grosses galères, mais bon, ce sera trop long pour raconter. Et ouais, donc, on a bien échangé, on est resté très, très bons amis. Et grâce à elle, en fin de compte, même quand je parlais français chez elle, elle m'a dit non, parce qu'elle comprenait le français. Mais elle me disait.
Et c'était l'anglais, quoi. Là, ici,
elle me disait non, tu vas apprendre, ne parle pas. Et donc, des fois, j'essayais de. Elle me disait non, tu parles en anglais. Et donc, ça m'a aidé. Et donc, j'ai pu donc avancer. Après, donc, je fais des groupes un peu plus importants. Donc, je rentre chez Eurostar, je fais des trucs un peu plus intéressants parce que je parle mieux anglais. Mm-hmm. Je lis plus de livres. Donc, toutes les semaines, je m'achète des livres de finance, d'entrepreneuriat, de business. Donc, vraiment, le mindset est grandi.
Mais en ce moment-là, le focus était d'essayer de percer dans le monde de la finance ou
pas encore. En fin de compte. Non, je pense que là, je suis plutôt en train de me chercher, en train de partir, de me dire qu'est-ce que je veux. Pourtant, toujours entrepreneur, mais peut-être pas les compétences ou l'envie ou savoir quoi créer. En plus, je ne suis pas dans le bon pays parce que je ne me voyais pas créer en Angleterre. Oui, donc là, je m'occupe plutôt du mindset et d'apprendre l'anglais, de voyager, on va dire. Mm-hmm. Je pars après quelques temps à New York. Je fais quasiment 2 mois à New York, mais pareil là-bas, je n'ai pas les papiers.
Oh, petite distraction. En Angleterre, tu fais combien de temps ? Tu as fait combien de...
En tout, je fais 1 an.
1 an, OK.
Je fais 1 an. Ensuite, je fais de juillet à août, je quitte Eurostar et je vais à New York d'un coup de tête. Hein. Je prends le billet le mardi soir et 2 jours après, je suis à New York. Ça, c'est souvent.
Tu avais des potes qui t'attendaient, t'avais.
Rien du tout. C'est souvent ce qui m'arrive. Rien du tout. Je me suis dit, j'en ai marre, j'ai envie de partir. Donc, je pars à New York. Et en plus, j'arrive dans un truc, j'ai mal traduit, donc dans ce qu'ils appellent un genre de bedroom, je ne sais pas quoi. Il y a 12 personnes, j'arrive de nuit.
Ah, les trucs avec bedroom, plusieurs, une voilà, salle avec plusieurs liés à l'intérieur.
Je mets mon sac, je suis en stress, je me dis, mais qu'est-ce qui va arriver à mon sac? Et je dors, il y a plein de mecs autour et tout. Je vois, oh là, mais où je suis arrivé? Même si quand j'arrive à New York,
je connais ça. Hein. J'en ai fait. Bon, c'est vrai que là où j'étais, il y avait 4 personnes. En plus, j'ai vécu, je crois, environ 4-5 mois. Avec la chambre qui sont les chaussures, tu vois, c'était. Mais je n'avais pas le choix, c'était où ça, où je dors à la rue. Donc, j'imagine un petit peu avec plus d'une dizaine de personnes dans ton cas, ça devait être vraiment chaud, là.
Mais je n'ai pas tenu, parce qu'en fin de compte, voilà, ce que je n'ai pas dit, le jour où je suis arrivé, j'ai fait une erreur dans la réservation. Donc, quand j'arrive à New York, je n'ai pas d'hôtel. Quand j'arrive à l'hôtel, ils me disent non, monsieur, vous avez réservé pour demain. Donc, le soir même où j'arrive, il était genre 10 heures. Merde. Je dois faire le tour de Chelsea, quartier à l'hôtel, pour trouver. Et c'est là que je trouve cette chambre-là. Donc, je le fais. Je le fais, je reste dans cette chambre-là. Le lendemain, je repars dans ma autre chambre, mais bon, pareil, c'est pas terrible. On est quatre dans le truc, il fait super chaud. En plus, au mois d'août, à New York, c'est une catastrophe. Ça, pff, voilà quoi. Faut aller prendre les douches dehors. Et je parle toujours bien, mais je suis pas totalement bilingue, donc ça va mieux. Donc là, comme j'ai mis de l'argent de côté, j'avoue que je fais rien. Je me balade, j'achète des bouquins, je fais le tour de New York, je dis, ouais, je le kiffe, je suis heureux, tu vois, je suis à l'étranger, je vois un autre esprit. Donc, l'esprit commence encore à changer. Je vois des choses que je ne vois pas. Surtout qu'en France, comme tu dis, t'es affrontier, tu es inexistant. Si tu ne fais pas du foot, si tu ne regardes pas un match de foot, il n'y a pas d'affrontier. Et surtout à l'époque, encore pire. Donc là, je vois des choses que je ne vois pas. Je vois des quartiers que je ne vois pas, des quartiers que je ne voyais qu'à la télé.
Tu peux un petit peu nous situer au niveau du temps, on est quoi? On est au
Là, on est en
milieu des
2003.
années 2000? Ok.
2002-2003. Et en plus, quand je vois tout ce que je voyais à la télé. Je vois les grandes tours, je vois l'Empire State Building, tu vois. Donc, mais bon, je ne reste pas longtemps parce que j'ai du mal à trouver du boulot parce qu'il faut faire du boulot au black. Il faut faire ce qu'on appelle être mover, donc c'est déménageur. Je ne suis pas super motivé, je n'ai pas les papiers, tu n'as pas de compte bancaire. Je rencontre des gens qui le font depuis un an, ils changent et tout, mais le jour où tu te fais contrôler, heureusement, tu n'es pas comme en France. Là-bas, les gens ne te contrôlent pas comme ça. Mais si je me sens pas en bonne situation,
La
je me dis, mais
sécurité, ouais, c'est beaucoup, beaucoup trop
je vais
stressant.
travailler, j'aurai de l'argent, je vais te contrôler, je vais rentrer au pays. Enfin, voilà, je me dis, mais c'est quoi ça? Donc, je me dis, bon, je fais quelques temps et après, je rentre à Londres. Je rentre à Londres et donc là, je commence à faire encore quelques boulots. Je décide de passer un master, un MBA. Je pense que c'est encore pour me rassurer, penser encore que l'étude va peut-être m'aider. J'ai ce qu'on appelle le IELTS, c'est un peu le niveau du TOEFL que j'obtiens. Et quand je vais pour accéder donc au MBA, ils me disent qu'il y a une erreur. Il faut l'avoir 2 ans en tant que manager ou bon, encore une erreur de lecture de documents. Donc j'ai le niveau scolaire pour pouvoir aller à la faculté anglaise, mais je n'y vais pas. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste à Londres? Ou est-ce que je rentre en France pour parce que je me sens plus à l'aise pour créer ma première boîte, qui sera vraiment ma vraie première boîte. Et c'était à l'époque la mode ce qu'on appelle du streetwear. Mohamed Dia, Hermès et tout ça. Je me dis, bon, j'ai pas vraiment d'idée. Je vais rentrer en France, créer ça. Et je rentre en France, pourtant j'ai horreur du vestimentaire, c'est pas mon truc. Mais j'ai pas trop d'idées. Donc je rentre en France parce que je me dis, je serai entouré de la famille. On dit souvent que c'est bien d'être entouré de ses proches pour créer. Donc je rentre en France pour créer en fin de compte une marque de vêtements. Donc première boîte que je crée. Oh, une vraie galère. Donc je prends les fonds que j'ai. Je fais 700 t-shirts. Je mets le numéro 12 qui est mon chiffre préféré. Je faisais du basket, donc je mets Slamming, qui correspond donc à Dunker, on va dire. Je fais des petits modèles. Enfin, j'essaie d'apprendre le métier. Hein. Je fais le premier site internet que je fais faire par quelqu'un. Vraiment, un truc bootstrappé qui n'était pas terrible.
C'était du WordPress.
Bon, je ne sais même pas. Réellement, je ne sais même plus comment j'ai rencontré cette personne-là. J'ai donné de l'argent, m'a fait le site. Après, donc, il me livre les 700 t-shirts qu'en plus, dès le début, je fais une erreur de base. Je négocie mal. Je suis tellement pressé. Je négocie mal, en fin de compte, la marchandise, qui est une base dans le commerce et dans le gros. Je vais voir un commerçant turc qui est en France, mais qui fait faire en Turquie. Parce que j'ai voulu faire en Chine, mais en Chine, il me demandait 2000 unités. Je n'avais pas les moyens, je n'avais pas
Ah ouais, c'était
confiance.
beaucoup trop.
Là, au début, en plus, je voulais faire que 300 t-shirts. Parce que les 700 m'ont coûté quand même une petite somme. J'étais pas riche, mais bon, donc je crée une SARL, une URL
Mais avec les
plutôt.
trucs, ça réduisait un petit peu quand même les délais de livraison, j'imagine.
Ça, c'est vrai, tout à fait. Ça réduit les délais. En plus, j'ai un intermédiaire que je peux voir, je peux aller discuter. Donc, il me fait faire des t-shirts pour 5 euros, 6 euros. Et je sais pas si tu connais le t-shirt, même ça n'a pas changé. Hein. Si tu vends ça, environ 20 euros. Mais tu vends 20 euros quand tu es connu. Quand tu n'es pas connu, les gens ne vont pas t'acheter ton truc. La qualité était bonne, tout était bon. Mais c'était deux t-shirts de deux couleurs en 700, donc c'est une somme 700. Il faut les liquider. Et c'est là que je vois que je ne suis pas assez bon en vente parce qu'en fin de compte, ben, je galère à les vendre. Je fais un peu comme il faut les donner aux amis, à tout ça. Et je n'avance pas en fin de compte. Je vois que j'ai créé une boîte qui, en fin de compte, une boîte, c'est facile. Moi, je vais en créer plein. Alors là, c'est que la première. C'est facile à créer. Mais après, il faut pouvoir implémenter et manager. Je dis, oh merde. Donc, je me mets en chômage technique, enfin le système français où tu as quand même un peu d'argent et tu peux. Donc, je crée la boîte. Je vais voir des magasins, je les mets en dépôt-vente, c'était la mode à l'époque. Je fais quelques ventes, mais je les vends pas au prix que j'aurais dû faire. Donc, je les vends peut-être 10, 12 euros. Donc, je ne gagne pas des millions et je n'arrive pas à écouler la marchandise. Ce qui fait qu'après quelques mois, eh ben, je dois arrêter. Et j'ai encore un stock d'aide de. Allez, à l'époque, je devais encore avoir 200-300 t-shirts. Donc, voilà, j'ai perdu de l'argent et je me dis, et je lisais Robert Kiyosaki, je me dis, voilà, Thierry, t'es un mauvais vendeur. Donc, il faut que tu ailles à la vraie école, il faut faire du porte-à-porte. Et donc, je m'inscris dans. Je cherche sur Monster à l'époque qui marchait bien, du porte-à-porte. Et je suis embauché pour faire du porte-à-porte dans une boîte qui vendait Canal Plus, Canal Sat. Voilà.
Ah, je crois que c'était même la période, non, la mode à l'époque.
C'était la grande période. La grande, grande période.
Avec tout le monde, avec sa cuvette, là.
Et là, j'ai commencé à vraiment apprendre à la dure, à gagner même plutôt bien ma vie à l'époque parce que j'avais les 26-27 et je faisais entre 3 et 4 000 euros par mois, des fois 5 000. Ouais. Quand tu viens de banlieue, surtout qu'un an après, je sors de ma petite banlieue pour aller habiter dans le 92 un peu mieux à Courbevoie et m'acheter ma première maison. Voilà. Ouais. Puis ensuite, la deuxième, je prends la grosse voiture allemande parce que ça allait mieux.
Donc, il fallait avoir la totale, quoi.
Mais il y a un élément super important que je raconte souvent. Cette époque aurait pu ne jamais arriver parce que quand je commence, je suis formé par un des formateurs, tout se passe bien. Le deuxième, mon manager, dès le départ, on s'entend mal. Il n'aime pas ma tête. Donc, il va jamais m'aider en fin de compte. Et en fin de compte, il ne va surtout pas croire en moi. Et donc, comme c'est tout ce qui me sont déjà arrivé, je me dis, bon, je n'ai pas le choix. J'étais motivé par acheter ma première maison. Donc, ça, c'était vraiment le pourquoi. Je me dis, je vais sur le champ de ma banlieue, il faut que je m'achète mon appartement. Et je sais que je vais recréer, donc je sais que j'ai eu des galères, mais j'ai toujours ce truc, il faut que je crée, il faut que je sois indépendant. Je ne peux pas rester salarié, ce n'est pas possible. Mais là, je suis assez libre. C'est-à-dire que je prends mes boîtes de décodeurs, je prends ma voiture et je vais prospecter en porte-à-porte. Donc, je suis assez libre, tu vois. Et je fais mon propre temps parce qu'en fin de compte, au début, je galère. En fin de compte, voilà, plus important. La première journée est la plus dure et celle qui va m'aider pour tout le reste. Je fais 3 ans là-bas. Hein. Wow. Je fais 1 an en tant que commercial et 3 ans en tant que manager. Première journée, je fais quasiment peut-être 200-300 portes. Il fait chaud, c'était fin juin. J'étais formé sur le produit parce que je le connais, même si je ne regarde pas de télé. J'aime le produit. Je tape en porte, je fais Saint-Ouen, Saint-Denis, je ne sais pas si tu connais pas le coin. Je galère. Tout le monde me dit non. Et je suis toujours un peu bègue. Je parle vite. Parce que j'ai toujours fait un travail sur mon écoute. Et c'est pour ça que j'ai aussi fait le podcast parce que je ne suis pas de nature. Je suis pas un parent naturel.
Très intéressant ce que tu es en train de dire. Tu sais à qui tu me fais penser en disant ça, parce que c'est les mêmes choses qu'il a racontées justement dans d'autres interviews. C'est Stan Leloup, en fait. Et ça, tu peux le voir si tu peux écouter les épisodes de podcast de 2014 sur Séduction Academy, ou le podcast avec son frère, là, Frère Série, là où il fait des décryptages de séries. Tu écoutes le rythme de temps avec lequel il parle et tu regardes les vidéos YouTube qu'il fait sur sa grosse chaîne aujourd'hui. Il y a un gros décalage, c'est pas la même personne.
Il y a un gros décalage.
Dégaye, ça parle vite. Et maintenant, il est là, il est plus. Tu as l'impression qu'il est plus apaisé, il est plus.
Ouais, mais il y a un gros décalage. Même si tu as l'écoute, tu as l'habitude, même quand il parle actuellement, tu sens que c'est quelqu'un qui a travaillé parce que tu sens qu'il y a encore des petits défauts. Pourtant,
il démarre, il ne s'arrête pas.
Non, ça, c'est pas un problème. Il a la technique. Mais tu sens qu'il est, c'est pas un orateur naturel, qui a un truc qui se force à parler vite, voilà, parce que tu sens qu'il y a un truc. Mais il faut être comme moi, savoir qu'on a des défauts pour sentir que le gars est comme moi, il a besoin de parler vite, il sait se contrôler, voilà, tu vois.
Même là, moi, c'est plus parce que j'ai écouté ces trucs par le passé.
Non, mais il faut que j'ai
qu'il en parle aussi, et c'est là où je vois la grosse différence. Et tu vois, tu dis, et moi je trouve que c'est même un espoir de dire aux gens que ben. C'est possible de que ça se travaille. Si tu veux, tu peux modifier, pas forcément te modifier toi, ta personne, mais de travailler sur un truc qui peut-être pourrait te permettre de mieux faire véhiculer tes idées, tes principes, ta philosophie de vie, tu vois.
Ben, c'est ce dont on allait parler après, mais bon, là, on est plus parti sur le parcours. Mais disons que c'est quand tu es passionné, parce que c'était un des éléments en fin de compte de ce que j'allais parler, quand tu es passionné, c'est plus simple. Tu vas faire ce qu'il faut pour pouvoir. Donc, c'est un des 10 éléments. Ça coûte rien. La passion, ça coûte rien. Voilà. Et par rapport à mon parcours, il y a d'autres éléments qu'on va indiquer. Mm-hmm. Donc, la
donc
passion.
Tu fais plus de 200 portes comme ça, sans rien.
La passion. En plus, et là, je vais en donner deux par rapport à ce qu'on allait dire. Donc, la passion, donc être passionné et avoir un pourquoi, et l'éthique de travail. Et là, je l'ai eu, l'éthique de travail. Donc, je l'avais avant, mais c'est quelque chose que, comme au basket, je l'avais. Hein, je bossais comme un dingue et je suis devenu bon dans mon domaine, mais j'ai arrêté. J'ai fait l'erreur d'abandonner. Et là, ça m'a servi. Je me suis rappelé cette période-là. C'est un truc qui va toujours, même pour le podcast, hein, qui va me servir. Ne jamais abandonner. Et plus, en plus des lectures que je faisais d'entrepreneuriat, et toi, tu le sais, entre quelqu'un qui a réussi et quelqu'un qui n'a pas réussi, c'est souvent une personne qui a abandonné trop tôt. Soit il arrive trop tôt sur le marché, soit il est à fond dedans, il a que des galères. À un moment, il dit, j'en ai marre. Tu supportes plus de galérer. Eh ben, c'est ça. Ouais. Et tu en as des fois qui n'arrêtent pas, qui devraient arrêter, et d'autres qui arrêtent, et en fin de compte, voilà, l'heure est juste après. Tu fais encore 6 mois, une année, mais tu le fais pas.
Et comme, bah,
je sais pas si tu connais Pat Flynn, le podcaster.
Ouais.
Plusieurs fois, il le dit. Il a commencé en 2008. Il a eu peur de commencer, comme toi, parce qu'on en a parti au podcast. Et il a mis quasiment 3-4 ans avant que ça marche, parce que le blogging marchait mieux que le podcast. Le podcast ne ramenait rien. Il dit, mais pourquoi je le fais? Mais il est bien, ça, heureusement, il est passionné. Il a vu qu'il était aussi dans un marché qui allait grossir et il a continué. Et des exemples comme ça, tu en as plein. On en a plein des trucs comme ça. Et là, c'est pareil. Mais je reviens sur mon exemple. Je fais 200 portes. Je commence à taper à 10h. Et à 20h35, j'ai une dame qui me dit, oui, rentrez, monsieur. Et je suis en stress, je suis dégoûté. Je me dis, mais si, j'arrive pas. Et surtout que j'avais un exemple d'un mec qui est ensuite devenu mon associé, qui faisait 4 500 € par mois. Donc, j'avais en plus un exemple. C'est bien quand tu as un exemple.
Tu étais ancré, ouais.
Donc, je me suis dit, si lui le fait, moi, je peux le faire. Je vais faire 5 000 €. J'ai fait qu'un seul mois, 5 000 €. Mais j'avais un exemple. Donc, quand tu as un exemple, le mec qui vient dans le banlieue comme moi, il avait rien de spécial. Je me suis dit, ben, je vais le faire. Et donc, quand je tape, j'ai tout ça en tête. J'ai abonné le basket. Je veux ma maison. Je veux ci, je veux ça. Et voilà, je suis sorti de ma banlieue. Et ben, je tape comme un dingue. Et à 20h35, cette dame, merci à elle. Elle me prend mon contrat, je tremble, le stylo, je signe, je serre la main, je prends son chèque, je fais tout, je me dis, ah, je sors de là, je me dis, ah, je suis le meilleur. Et le lendemain, j'en fais 2, après j'en fais 3, après j'en fais 5, et après je m'arrête plus. Je deviens le meilleur commercial rapidement. Même tout le monde se dit, mais comment il fait? Il parle mal, il est bègue, tu vois? Et ça marchait quand même. Et moi, j'adorais les portes. La porte-à-porte, c'est l'un des plus beaux métiers du monde. Malheureusement, il y a mauvaise réputation. Des fois, il y en a qui le font mal, mais le porte-à-porte, quand tu es jeune, après, je ne sais pas si ça a changé parce que j'en fais moins. Enfin, j'en fais plus même. Mais tu es libre, tu prends ta voiture, on te donne tes contrats et tu vas faire tes ventes.
Et tu es devant la personne. Ce n'est pas un truc de production de masse. Tu écoutes le problème de la personne et tu essayes de lui donner peut-être l'offre la plus adaptée. Je ne sais pas trop pour le cas de ces cuvettes-là, s'il y avait différents packs et qu'il fallait...
Moi, ce n'était pas des cuvettes. C'était vraiment un décodeur simple. Hein. C'était le décodeur le premier. Le décodeur où les gens, je venais, j'avais un décodeur. J'allais chez les gens, je le branchais. On faisait le contrat. 15 minutes après, j'appelais le service client et j'avais donc les gens qui avaient les chaînes. Ils avaient une chaîne brouillée et quand je partais, ils avaient une chaîne qui allait. Et j'étais content. Et je faisais tout un immeuble, tout un quartier. Et puis, les gens étaient contents. Et puis, moi, j'ai rencontré du monde. Parce qu'à la même période, j'ai commencé à faire des soirées. Je faisais des soirées avec un ami qui actuellement a toujours un bon business. Et donc, je faisais ça. Et le soir et le week-end, je faisais des soirées aussi. Donc, soirées à Frantillaise.
Et avec des personnes qui étaient déjà clients dans l'autre, l'entreprise où tu étais commercial, quoi, une sorte de...
Non, c'était avec un ami en fin de compte du quartier où j'ai grandi. Mais des fois, comme je tapais en porte, des fois, je faisais des cartes où il y avait des jeunes ou des résidences étudiantes. Et ben, j'avais mes flyers, je faisais le Canal Plus et je posais le flyer.
C'est ça que j'ai dit, une sorte d'économie circulaire. Donc, il y a l'arrivée que des personnes qui ont déjà booké par rapport à ton boulot de commercial, qui partent aussi booké par rapport à l'événementiel. Si...
Tout à fait. Donc, à un moment, je joignais l'utile et l'agréable. Donc, je faisais la prospection. Et donc, en même temps,
je faisais des upsells. Hein.
C'est ça. Je faisais des upsells. Je ne savais pas c'était quoi, mais je le faisais. Et donc, voilà, on essayait d'apprendre difficilement l'entrepreneuriat. Parce qu'en plus, les soirées, c'est jamais un truc qui m'a aimé. Tu vois, j'ai fait des trucs aussi des fois que je n'aimais pas. Mais c'était une opportunité, donc je le faisais. Mais les soirées, je ne suis pas un mec de soirée. J'y allais pas. Ça n'a pas duré trop longtemps parce que les boîtes nous volaient. Tu vois, en plus, quand tu fais des soirées affrontillaises, ce n'est pas les plus rentables. Si on avait su, on en a fait quelques-unes, mais c'est plutôt les soirées où tu vas dans les beaux quartiers. On en a fait un peu sur les champs où tu fais des soirées house ou dance. Les gens, c'est plutôt des gens, des cadres dynamiques ou des jeunes de parents riches qui vont prendre 10 bouteilles. Soirée affrontillaise, ils prennent une bouteille. Voilà, c'est fini. Quoi. Il n'y en a pas trop. Sans être méchant. Sans être méchant, mais c'est la vérité. Voilà, c'est pas loyal à l'argent.
C'est logique en même temps. Ouais, c'est pour faire du cash. Et est-ce que pendant ta période de manager, tu gagnais des commissions sur les personnes qui étaient
en dessous? Après, donc, un an, je passe manager, mais je suis un très, très, très mauvais manager. Extrêmement mauvais. Parce que je pensais que tous les commerciaux étaient comme moi. Moi, mon manager ne m'a jamais managé. Je l'appelais tous les soirs, je lui disais, j'ai fait tant de ventes, c'est tout. On a bossé une fois ou deux, mais on ne supportait pas. Et même après, moi je suis passé manager, lui il est passé directeur commercial. Et là, on a essayé on ne s'aimait pas, donc il n'y avait rien à faire. Donc, en tant que manager, je cherchais des gens comme moi, où je n'avais pas les managers, je leur disais, va faire ça, et ils vont faire
ça. Et apporte-moi le résultat. Ouais.
Et j'ai appris à la dure, et je l'ai même après, que ben, malheureusement, il y a tout dans une équipe, tu as un messie, et tu as des gens qui sont, il faut apprendre à manager ensemble. Tu as des gens qu'il faut vraiment être là avec eux. Qu'il faut vraiment leur montrer comment faire les ventes. Et même quand tu leur montres, ils ne comprennent pas. Et donc, malheureusement, c'est ton équipe. Et souvent, donc, je m'embrouillais avec ils partaient de mon équipe et j'avais beaucoup ce qu'on appelle le turnover. À un moment, j'avais 5 personnes, à un moment, j'en avais 10. Et j'avais du mal à gérer l'équipe, donc je vais moins rester commercial. Et j'avais une rémunération sur mes ventes et sur les ventes de mes équipes. Voilà. Donc, assez compliqué. Je fais 2 ans, mais je te dis la vérité, je galère. Je fais quasiment jamais mes objectifs de manager. De commercial, oui, toujours. Mais l'objectif de manager, c'était impossible. Je galérais. Et à l'époque, je commençais à lire un peu des livres de manager. Mais ce que tu apprends dans le bouquin et à l'école
La
et sur le
pratique, c'est
terrain,
pas
ça n'a rien à
évident.
voir. Ouais, c'est de l'humain. Et ça, maintenant, parce que j'ai de l'âge, je pourrais le faire. Je le ferais mieux, parce que je l'ai fait un peu mieux plus tard. Mais ça s'apprend. Le management, tu peux le lire, tu peux. Il faut
Le
l'expérimenter.
pratiquer et l'adapter
Eh oui.
dans son contexte. Ok, et
Voilà.
donc du coup, tu fais 3 ans là-bas, comme tu disais tantôt, et qu'est-ce qui te pousse à quitter si le fait que tu n'arrivais pas à t'arriver rapidement sur un plateau par rapport
D'abord, j'avais un plateau et j'étais le départ. Je n'ai jamais voulu de salarié. Je le fais parce que je n'ai pas le choix. Mais moi, je me lève le matin, je dors, je pense au business, à l'entrepreneuriat.
à.
Mais je l'avoue actuellement, parce que maintenant que le recul, après, il faut les bonnes opportunités, les bonnes idées et le talent. Donc après, il faut juste se dire la vérité. Je suis bon vendeur, ça, je me suis prouvé. J'ai des idées, mais il faut apprendre ensemble. Tu vois, il y a plein de choses que du leadership, ça, je l'ai aussi. Mais il y a un ensemble de choses. Ce n'est pas juste, ah, je vais créer une boîte et tu la crées. Enfin, à l'époque, parce que maintenant, c'est plus facile. À l'époque, maintenant, je me dis, mais si j'avais connu le blog et tout ça, ça reste de l'entrepreneuriat, mais c'est plus facile.
En 2, 3 clics, là,
À l'époque, je
tu
te
montres.
rappelle que moi, je rentre dans la boîte en 2004. Donc, WordPress devait commencer, tu vois, pour mettre en relation avec ce qu'on fait nous actuellement. Et je quitte la boîte en 2007. Tu vois? Et en 2016, je me dis, bon, c'est bon, j'ai l'argent, j'ai 2 appartements, j'ai une grosse voiture allemande, j'ai du cash. Qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas rester là. En plus, bien sûr, comme toujours, partout où je vais, je m'embrouille avec le directeur, parce que je voulais partir, il ne veut pas. Bah, partout où je vais, je m'embrouille. C'est naturel. Parce que moi, je suis indépendant et que je n'ai pas envie qu'on prenne la tête. Et en plus, ils partaient vers un délire un peu différent, parce que le porte-à-porte, je te dis, c'est un peu vicieux. Et ils allaient vendre des produits que je ne voulais pas vendre. J'ai dit, non, moi, je ne vendrai jamais ça. Donc, c'était un produit qui marchait très mal en porte-à-porte, où il n'y avait pas d'arnaque. J'ai dit, moi, je ne vendrai jamais ça de ma vie. Ce n'est pas mon truc, je ne veux pas vendre ça. Donc, je vais partir. Il y a encore d'autres raisons. Et j'avais fait le tour. À un moment, tu sais, quand tu fais le tour, je ne peux pas devenir directeur commercial. Voilà.
C'est rare quand même. J'en ai déjà parlé avec d'autres personnes sur ce podcast. C'est rare de voir quand même quelqu'un qui commence sa carrière en tant que commercial et 15 ans, 20 ans après, il est toujours commercial. Généralement, c'est soit un mauvais commercial.
Tout à fait.
En fait, c'est la seule raison, quoi. Parce que pour quelqu'un qui est bon, généralement, il upgrade, il devient soit un entrepreneur, il lance un truc après. Parce qu'il découvre en fait l'immensité, la grandeur du truc, les possibilités. Il voit que le champ, il n'y a pas de limite, tu vois.
Ben surtout que
Généralement, ça upgrade, quoi.
mais quand tu vois un commercial et un entrepreneur, ça se ressent. Mais souvent, un bon entrepreneur est un bon commercial. Quand on dit Steve Jobs, il est. Non, c'est un bon vendeur. Et quand tu regardes le film, et moi j'ai le bouquin, et quand tu regardes le film, je ne sais pas si tu as vu le film de Steve Jobs, qu'est-ce qu'il fait au début? Dans son garage, il prend le téléphone, il appelle, il fait du cold calling. C'est ça un bon commercial. Au début, personne ne croit en toi, tu as un produit, il faut le vendre. Et puis après, tu mets une équipe, tout ça. Mais au début, si t'es pas. Parce que Bill Gates, voilà, qui. Pareil, il a une tête, tu n'as pas envie de lui faire confiance. Pas lui faire confiance, mais il n'est pas avenant. Quand tu dis le gars, il a une tête de tech, tu vois. Mais je pense que c'est un bon vendeur. Et puis si tu arrives, si, tu as 2 choses. Soit tu vends le produit, soit tu vends ton projet. Il faut l'un des deux. Quand tu as un business, il faut que les gens viennent travailler pour toi. S'ils ne t'aiment pas ou n'aiment pas ton produit, pourquoi tu veux qu'ils viennent bosser pour toi? Il y a plein de gens qui donnent du boulot. Ou sinon, ils vont venir prendre ton fixe et ils ne vont rien faire. Ce qui m'est arrivé plus tard. Tu vois? Donc, après, donc quand je quitte là, je cherche des idées. Et je lisais beaucoup Robert Kiyosaki et il dit, quand tu n'as pas d'idées et j'ai des projets qui ne marchent pas, donc fais de la franchise. C'est un truc qui marche. Il parle souvent de McDo et tout ça. Je me dis, bon, ok, je vais aller faire, je
Je
tente de
crois que c'est
franchise.
chez
Donc,
lui que moi j'ai entendu parler pour la première fois de franchise. Il parle
et
beaucoup de
voilà.
ça, même de comment est-ce que McDo il a fait pour s'émanciper et tout. Le fait que McDo, ouais, c'est son burgers, en fait, son business, c'est l'immobilier et tout.
Tout à fait.
Je savais pas ça avant. Donc
Et c'est pour ça que moi, comme je commençais j'avais acheté mon premier appartement et un deuxième, je me dis, moi, j'aime bien l'immobilier. C'est un truc que j'ai envie de faire. En plus, ça correspond à ce que je fais. Parce que l'immobilier, il faut aller en porte, il faut parler aux gens. Même si je suis introverti, j'aime aller voir les gens et discuter, faire du business. Et donc,
négocier,
quand tu es un bon agent, il prend ses papiers, il ne fait pas que du mailing. Il tape en porte, il dit, bonjour, est-ce que vous savez s'il y a une maison à vendre? Donc, ça correspond à ce que je voulais faire. Mais avant ça, je devais faire du Subway. C'était à la mode à l'époque. J'ai rencontré la direction.
Subway, c'est si vieux que ça, je savais pas.
Si, si,
C'était récent, Subway.
non. Non, c'était. Non, c'était en fait contre les premiers. À l'époque, il y avait 54 magasins. Ils avaient du mal à se développer en France. Bon, je ne le fais pas. Et ensuite, je fais un réseau, un premier réseau, mais je n'avais pas la carte. quand tu fais de l'immobilier, il faut avoir une carte d'agent. Mmh. Et moi, j'avais un niveau BTS. Ce qui m'oblige à souscrire à un réseau, mais de prendre un manager, donc ce qu'on appelle un porteur de carte, donc que je paye. Ouais.
C'est lui qui, en fait, montre un petit peu la carte qui
voilà. Voilà.
tout le collectif.
Je passe en même temps une VAE parce que j'ai 3 ans d'expérience sur le terrain, donc pour avoir mon BTS NRC qui mm-hmm. correspond plus à ce que j'ai, parce que moi j'ai fait un MUC ça n'a rien à voir, et donc j'ai mon diplôme un an après, donc là j'ai fait faire vite, donc j'ai mon diplôme un an après, ensuite j'ai je passe aussi une licence pour avoir donc une licence de pendant que j'ai ma franchise, hein, j'ai ouvert 2 franchises, j'ai mon diplôme de licence, et donc là je peux prendre ma carte, donc 2 ans après je peux prendre la direction de mon agence. Et ce que je n'ai pas dit, c'est que j'ai fait la bêtise. En juin 2008, j'ai eu 2 agences immobilières. Une tout seul, une avec mon associé qui est mon ancien manager. Pas le manager que j'étais en mauvais terme. Donc, je vais avec lui qui était lui le meilleur vendeur, qui gagnait 4,5. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire, je vais m'associer avec les meilleurs. Donc, j'ai 2 agences. Une où je suis associé en minoritaire. Mmh. Donc, je suis toujours associé, j'arrive toujours pas à sortir. C'est pourtant le moment du départ. On en parlera après.
Ouais, c'est une histoire.
Et puis, donc, qu'est-ce que j'ai ? J'ai mon agence, voilà. Une agence que je rachète parce que j'arrive pas à ouvrir. J'ai plein de locaux, enfin, c'est une vraie galère. Et donc, je suis obligé de racheter une agence qui est déjà en activité avec des employés. Mmh. Employés que je dois renvoyer 3 mois après en prud'homme. Donc, dès le départ, je crée une boîte. 2 mois après, il y a Lehman.
Quand la crise, en 2008.
J'ouvre en fin juin 2008 et en septembre, les mains tombent. Donc, il n'y a plus d'immobilier et heureusement que je suis bon vendeur. Donc, j'arrive à tenir le coup parce que ben, je vire tout le monde. J'ai une grande agence. Donc, je suis obligé de faire des ventes moi-même, mm-hmm. Tenir un peu l'agence, faire de la trésorerie pour pouvoir relancer l'agence. Voilà. Et donc, pendant 5 ans, ben, je fais l'agent immobilier. C'est pas si facile que ça, parce que c'est une période qui est pas qui est galère.
C'est pas gay du tout, ouais, les gens. Je crois que l'activité a mis au moins une année, je crois peut-être 2 ans avant de reprendre petit à petit.
C'est ça, 18 mois. Et en plus de ça, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier. Je reste toujours un très mauvais manager. Donc moi, je suis meilleur quand je suis tout seul dans l'agence, où je ferme l'agence et je ferme mes ventes comme moi. Et quand je dois manager d'autres commerciaux, d'autres vendeurs, bah, ça ne marche pas. Donc, à un moment, j'ai même 7 personnes, mais ça ne marche pas parce qu'il y a un problème. Je suis trop un manager. Moi, je suis un vendeur, je ne suis pas un manager. Donc, et maintenant, demain, je crée une boîte, je prends un…
manager.
Je prends un associé et le gars va gérer les managers. Moi, je fais autre chose et lui gère l'humain. Moi, je ne gère pas l'humain, ça ne sert à rien. Donc, ça, je le sais, tu vois, c'est avec l'expérience que tu apprends. Mais je l'ai appris à la dure, tu vois, parce que là, il y a quand même des sous. Et entre-temps, ce que je n'ai pas dit, c'est que 3 ans après, je revends l'un de mes appartements pour refinancer la structure et je crée une 3e agence. Mmh. Donc voilà, donc j'ai un moment 3 agences et je me fais rattraper par la crise parce qu'il y a des problèmes de trésorerie que je gère très mal aussi. J'ai un comptable pourtant, mais bon, après c'est juste qu'on apprend. Donc tu vois, mon parcours par rapport à d'autres, moi je ne fais pas des MBA, ce qui peut servir, mais j'apprends sur le terrain à la dure ou des choses où il y a des trous. Et quand je ferme boutique, disons pour la vraie histoire, toujours des galères de management. Je fais toujours environ 200 000 euros de chiffre d'affaires l'année, les meilleures années, sur une agence. L'autre, elle ne marche pas trop. La 3e, elle est toujours en activité, fait 400 000 environ. Qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai un promoteur qui veut racheter l'immeuble de mon propriétaire. Et moi, je suis là, je suis dans le local. Il veut me racheter à moi. On négocie. Il me donne 100 000 euros pour partir. Maintenant, je lui dis, allez, je prends. Ça va rembourser mes dettes, je vais repartir. Mais comme j'ai des retards de loyer, le propriétaire se dit, ok, je vais l'avoir. Il m'envoie recommander pour que je puisse payer le reliquat que j'ai. Mais comme j'ai un loyer très élevé pour la profession, c'est ce qui me plombait un peu en plus des erreurs de management, j'essaie de tout faire pour rembourser, j'ai un mois. Parce qu'en fin de compte, quand tu as un fonds de commerce, le fonds de commerce, il dépend du local. Si tu n'as pas de local, mm-hmm. tu n'as pas de fonds de commerce, tu n'as pas de business. La différence, c'est que quand tu es en ligne, tu es chez toi, voilà, tu n'as pas besoin de local. Et donc là, je stresse, je vais chercher les amis. C'est là que tu vois que tu n'as pas beaucoup d'amis dans la vie. Donc 2-3 personnes me donnent un peu d'argent. Mon associé me recale. Pourtant, on est associé, hein. On est juste un ami. Donc voilà, et je galère, je mets un peu d'argent et je suis forcé de mettre en redressement judiciaire. Pourtant, un mois avant que je ferme, je fais la vente du siècle. Je fais 2 ventes, je fais 50 000 euros en un week-end. Pour moi, ce qui est énorme, parce qu'après, bon, il y en a qui font plus que ça. Je vends deux maisons de plus de 500 000 euros, donc je prends une commission classique, et je fais environ 50 000 euros. Mais ça, je vais les encaisser 4 mois après. Enfin, 3 mois, parce qu'en plus, comme eux, ils viennent du Congo, je leur dis bonjour, ils n'ont pas à faire des financements. Ils n'ont pas à faire des financements parce qu'ils sont pas français. Et donc, ils vont devoir chercher l'argent au pays, prouver grâce à Tracfin d'où vient l'argent. Enfin, une vraie galère. On a le financement, mais moi, je suis toujours en redressement judiciaire. Et dès que j'ai un client qui vient me voir, tout le quartier sait que je suis en redressement judiciaire. Tout le monde sait que je suis...
L'information remonte très rapidement.
Tout le monde sait que je suis quasiment mort. Tu vois, donc moi, je suis là, j'essaie de gérer, mais entre le moment où je me suis mis en redressement judiciaire et la liquidation, je ne fais aucune vente. Je galère. Et en plus, je me fais exploser, parce que je ne sais pas si tu connais un peu le système de la liquidation judiciaire et donc du redressement. C'est-à-dire que tu as le liquidateur qui te demande du cash, tu as l'administrateur qui te vole pour tout et n'importe quoi, tu as le comptable qui te fait un plan de financement et te demande 2000 euros. Tu dis, mais pourquoi ?
Vous avez fait 4 pages. Tout le monde derrière toi, quoi. En même temps.
Non, disons que j'en ai parlé sur mon podcast, sur un de mes podcasts.
On va mettre le lien en description. Je suis sûr que ça va être cool d'écouter ça, quoi. Bon, pas la situation qui est cool, mais l'histoire.
Non, parce qu'en plus, dans cette interview, j'interviewe un mec qui a perdu 40 millions. Et donc, lui, il a eu le même souci que moi, mais lui, il a eu un avocat. Alors, quand tu es en liquidation judiciaire, en redressement, il faut avoir un avocat. Si tu n'as pas d'avocat, tu vas te faire exploser. T'es le droit, t'es un humain, t'es pas. Donc tu dois te défendre tout seul devant des liquidateurs, des administrateurs, devant un comptable et tu vas te faire avoir. Simple. C'est une machine à broyer l'humain. Et c'est pour ça que, n'oubliez pas que je crois que c'est une personne sur toi qui sort de liquidation judiciaire se suicide. Tellement c'est dur psychologiquement de se faire liquider. C'est ta boîte, c'est ton bébé, tu donnes ta vie dedans et tu te fais défoncer. Tu vas au tribunal, on dit, on te prend pour un criminel. T'as fermé des boîtes, t'as.
Ouais, le méchant patron.
Voilà, méchant patron. Et moi, je m'étais arrangé pour ne plus avoir grand monde. J'avais deux personnes qui étaient je crois que c'est l'ARS ou l'ASF, j'ai oublié. Donc, ils ont été payés par l'État. Enfin, il n'y a pas eu de souci. Donc, voilà quoi. Et donc, heureusement, comme je suis un entrepreneur, avant de fermer, j'avais déjà mon nouveau projet. Parce que j'étais l'avantage dans un business, dans une opportunité, tu vois des choses qui arrivent. Mmh. Et à arriver, ce qu'on appelle les mandataires immobiliers. Donc, je ferme le 1er juin 2012 et j'avais déjà, dès que j'ai fermé, en fin de compte, j'étais déjà parti sur un projet de création. Voilà. Même si il faut quand même payer des dettes parce que quand j'ai fermé, j'avais plus de 200 000 euros de dettes. Donc, il a fallu rembourser des dettes. Donc, je me suis arrangé. Là, j'ai pris un avocat pour pouvoir. Parce que tu dois plus d'être quand tu es en liquidation. Quand tu tombes en liquidation, tu dois plus de dettes. On t'en a plein d'autres. Mais il y aura toujours une dette, comme tu connais au Monopoly. Il y a toujours le banquier, tu peux pas l'arnaquer. Le banquier te met une caution sur ta tête. Voilà. Et heureusement, l'avocat fait ce qu'il fallait et 6 mois après, j'avais plus de dette. Voilà,
moi, j'ai une théorie. Je pense que ces gens, derrière, ils communiquent entre eux et puis c'est comme ça qu'ils réussissent à te prendre comme ça en sandwich ou en pincette devant, tu vois.
Je sais pas, mais en tout cas, voilà, quand j'ai voulu aller voir le banquier pour discuter avec lui, parce que c'était quand même mon partenaire, il n'a pas voulu m'aider. Pourtant, il savait, je lui montre la preuve que j'ai 47 000 euros qui va rentrer. Non, monsieur Henri, non, je ne veux pas. Je dis, ok, bon, ben, je me mets en redressement. Et là, il s'est énervé contre moi, on va porter plainte, vous nous devez tant. Et pourtant, il me faisait un petit découvert de quelques mois, je lui ai remboursé. Enfin, voilà, bon, c'est une parenthèse. Donc, voilà, donc, après, je pars sur un projet donc, de création donc, d'agence mandataire, un peu comme IAD et tout ce type de modèle, je ne sais pas si tu connais. Donc, je crée le site, je fais tout ce qu'il faut. Mais je vois très bien que ce type de projet, ce qu'on appelle les projets de start-up, et toi, tu connais bien ça, en général, et là, je commence à faire tous les fonds d'investissement français, mais j'y connais rien, parce que moi, je regarde beaucoup à la télé, sur Internet, Shark Tank, Dragon Den, mais c'est plus facile, c'est rien à voir. Donc, c'est toujours un peu l'esprit entrepreneur, mais peut-être trop optimiste ou trop rêveur. J'ai un site Internet, j'ai tout ce qu'il faut, mais j'ai plusieurs réponses d'entrepreneurs qui me disent, monsieur, il faut commencer le projet. Parce que là, j'étais tellement à sec, je ne pouvais pas commencer le projet réellement.
Et les objectifs n'étaient pas. Les objectifs étaient beaucoup plus financiers que de créer un truc. C'était vu, quoi, pas par rapport à.
Non, même pas. Je vais te dire un truc simple. Par rapport à ce que je connais maintenant et mon expérience, c'est toujours pareil. C'est la fois, tu aimerais bien avoir l'expérience que tu as 10 ans après, que tu l'aies sur le moment, mais sur le moment, tu ne l'as pas. c'est l'avantage d'avoir des gens autour de toi. Parce que moi, je viens toujours d'un endroit où je n'ai pas de réseau, je ne connais pas d'entrepreneur. Je les vois que en télé ou je les vois que sur bouquin et j'ai pas les infos. Donc d'où l'importance d'avoir ces mentors. Et pourquoi je fais le podcast je partage et que toi tu partages. Donc j'ai le site internet, j'ai l'idée, j'ai l'expérience, mais on me dit plusieurs fois, monsieur, si vous veniez me voir avec 100 000 euros de chiffre d'affaires et avec du love money, ce que je n'avais pas, si vous aviez une structure, vous aviez deux trois associés, il m'a dit, monsieur, quand on fait nous les startups, les financements, on ne finance jamais un homme seul. j'aurais été avec un DAF, un directeur commercial.
Si Digo, je sais pas, ouais, un truc,
voilà,
au moins c'est de la valeur humaine. Genre,
ouais, il m'a dit, vous avez,
au moins,
vous avez...
ils sont là et eux, ils peuvent faire, s'il faut sortir les poubelles, au moins ils peuvent sortir les poubelles, mais pas.
Si vous aviez une équipe et un peu de track record, donc 50 ou 5 000 euros d'affaires, on y va. Tu vois? Mais bon, le projet ne s'est pas fait. Et pour plein d'autres raisons, après, il ne faut pas chercher d'excuses. Donc, je fais un an de financement. En même temps, je suis responsable stagiaire dans un grand réseau de construction immobilière où j'arrive à gagner un peu ma vie et rembourser mes dettes. Parce que je... mm-hmm. Et pareil, comme toujours, je pars de là, fâché, je m'embrouille avec le responsable. Parce qu'à la base, j'étais rentré dedans pour gérer une agence. Et il me faut patienter, je suis toujours responsable, mais collé à un responsable. C'est-à-dire que j'apprends le métier de constructeur immobilier et on ne me donne pas d'agence. Donc, à un moment, je dis, bah, attendez, ça fait 8 mois que je suis là, j'en ai marre, voilà. Et donc, je pars fâché. Donc, je change d'agence, je vais chez un concurrent, mais pareil, ça, c'est une catastrophe, c'est horrible. Donc, tu vois mon expérience, pourquoi, dans tous les cas, vu que dans ma tête, c'est toujours être indépendant, ne pas être salarié, même quand je le fais, je me force, ça ne marche pas, parce que ce n'est pas, c'est pas dans ma nature. Donc, je pense qu'en plus, les gens le voient. Parce que j'ai souvent été pris en rendez-vous personnel. Ils m'ont dit, mais monsieur, voilà, vous n'êtes pas gérable. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que vous faites chez nous, quoi?
Allez monter votre propre truc, là. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de schéma pour vous chez nous.
C'était ça. Et donc, je fais ça. Et à un moment, je suis un peu perdu. Je dis, mais qu'est-ce que je peux faire, tu vois? Et donc, je commence un peu de marketing des réseaux. Parce que c'est vrai, quand je lis beaucoup donc, de Jim Rohn, tout ça, donc je me suis dit, moi... J'avais été contacté quelques temps avant par Herbalife. J'avais pas aimé. Je me disais, quoi, c'est arnaque, je suis parti du truc.
Ils sont toujours là, hein. J'entends.
Oui, ils sont toujours là. Ils sont cotés en bourse, enfin tout, quoi. Et donc, je fais une boîte française que je connaissais un petit peu. Je rencontre les managers. Ça me plaît bien. Je me dis, bon, ça ne me coûte rien. Je ferai toujours du développement personnel. C'est la plus grande partie donc, du MLM. C'est qu'il y a cette partie-là. Je vais faire ça en même temps que reprendre des études parce que comme je ne voulais pas revenir dans le monde du travail, j'en reviens. J'ai bien compris que le CDI, le monde du travail, c'est pas pour moi. C'est impossible, ça marche pas. Même si j'ai eu une bonne expérience à Canal+, mais j'étais plutôt indépendant, porte à porte. C'est vraiment l'esprit à part, ce que personne ne peut faire, simplement. Donc je me dis, je vais refaire un diplôme de parce qu'on est en France et en France on a bien les diplômes. On n'est pas pour la méritocratie. Et donc je vais faire un diplôme de dirigeant adjoint, un master, ce qui est l'une des plus grosses connaissances de ma vie.
Ça dure combien de temps? Un an, deux ans?
8 mois, donc j'ai perdu 8-9 mois. J'ai eu le diplôme, hein, mais c'est une connerie pas possible. C'est-à-dire que tu as la moitié des profs, je suis désolé pour eux, ceux qui m'écoutent, la moitié d'eux n'ont jamais créé de boîte, ne savent pas c'est quoi une boîte. Donc c'est des fonctionnaires, quoi. Et j'écoutais en plus dernièrement Robert Kiyosaki. Ils ont payé des profs.
Comme mon associé, il expliquait aussi dans sa vidéo l'arnaque des écoles de commerce. Il dit, mais t'arrives, tu vois, des messieurs qui veulent t'expliquer des trucs, pourtant ils n'ont jamais monté une boîte, ils n'ont jamais dirigé. 15-20 personnes et ils veulent t'expliquer du haut de leur diplôme comment est-ce que tu pourrais faire pareil, tu vois.
Et c'est pour ça que sur 10 profs, j'en avais 5 ou 2 3 où je m'entendais bien parce qu'ils avaient créé, donc je me sentais bien avec eux, même si eux avaient créé des boîtes qui avaient fait 10-15 millions, je sentais qu'il y avait quelque chose. Et quand je parlais, voilà, et les autres, souvent, donc je devais reprendre quand je pouvais, quand il y avait un lien, je me dis, mais moi j'ai créé ça. Donc je me rappelle d'un prof qui parle d'un truc et il pense que personne ne connaît, il sait pas que moi je suis créateur. On discute et il dit, mais monsieur, vous parlez de ça? Et quand il voit, même, il est en panique parce que je pense que lui, il n'a jamais connu une liquidation et je lui explique tout ce qui m'est arrivé. Et il me regarde et il me dit, bah oui, c'est tout à fait ça. Donc, monsieur Henri, regardez, bah, expliquez-moi. Et donc, c'est moi qui explique pendant le cours parce que ce truc m'est arrivé. Parce que même si j'ai pas créé Apple, j'ai créé des boîtes.
Tu as créé des boîtes, tu connais l'autre côté vert, quoi.
Que tu fasses 100 000 ou 1 million, tu as eu des soucis. Après, j'ai pas de soucis de gérer 20 ou 30 personnes, mais j'ai eu des soucis. J'ai eu mes pieds dans le cambouis, donc je connais. Je lui dis, ah ben oui, j'ai eu ça, je connais ça. Et dès que tu leur dis ça, ils ont une vision différente de toi. Parce que tous mes collègues qui avaient des bons postes de cadre, hein, c'est des bons cadres, hein, mais ils n'ont jamais créé de boîte. Personne n'avait créé de boîte. Donc, tu vois, le regard est un peu différent. Et même moi, après 2-3 mois, la moitié des cours, je n'y allais pas. Parce que pendant que j'étais en cours, j'avais un autre projet de rachat d'ambulance. J'étais dans le business d'ambulance. Enfin, tu vois le projet. Ben oui, il y a toujours une opportunité, tu as un projet. Je m'étais associé avec un gars, on devait racheter une ambulance. Ce qui ne s'est pas fait, parce qu'on a eu de grosses galères, mais bon, ça. Je veux pas rentrer dans le projet. Enfin voilà, quand tu fais des projets, il faut en avoir. Et malheureusement, 80% des projets ne passent pas. Pourtant, on a trouvé des belles agences. Et, mais quand on a fait ce qu'on appelle le due diligence, il y avait des problèmes sur le bilan. ou des trucs qu'on a voulu nous cacher.
Est-ce que c'est quelque chose que tu avais appris, comment faire une due diligence, comment faire une reprise
d'entreprise, non, mais,
regarder les bilans d'avant et
tout. Ça tombe bien que tu te parles, parce que moi, comme je t'ai dit avant, je commençais un peu à regarder toutes les émissions de finance et je commençais à m'intéresser à la finance d'entreprise, les startups, le business angel, tout ça. Surtout que moi, l'agence que j'ai créée, je t'ai dit avec mon associé, le manager, je suis considéré comme investisseur. J'ai mis un peu d'argent et j'ai 38% d'épargne. Donc, je me sens un peu business angel, même si je n'ai rien à voir, parce que j'ai fait la plus grosse erreur de ne pas signer de pacte d'associé. Donc, je suis dès le départ.
Peut-être tu peux rappeler rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi ce pacte-là des associés. Aussi, il faut noter l'importance de faire ça, même si on a les mains dans le cambouis dès le départ. Mais est-ce que tu peux un petit peu nous donner...
Et moi, je pense que dès le départ, comme sa mère est expert comptable ou comptable, dès le départ, il savait ce qu'il m'avait fait. Et moi, je me rappelle de la négociation, parce que quand je crée la boîte, je suis franchisé numéro 1. Donc, j'ai des prix sur la deuxième franchise et j'ai le maximum de parts. À un moment, on fait une discussion, on fait un repas ensemble. Il m'embrouille le cerveau, parce que c'était quand même le meilleur vendeur de la boîte. Moi, je suis là, je suis cool. Il me fait un calcul financier. Il me dit, en fin de compte, si tu veux que je gère ta boîte, parce qu'il est quand même cool. Il a compris que moi, je veux qu'il gère ma boîte, parce qu'il est très bon manager, très bon vendeur. Il me dit, je veux 50% et tu donnes 12% à ma soeur et toi, tu gardes que 38%. À l'époque, je ne savais pas que je suis en train de me faire avoir. Je ne connaissais pas ça. Et quand tu es en dessous de 40%, tu es minoritaire, tu n'as aucun droit quasiment. Tu vois, il faut avoir 40% et dans tous les cas, plutôt avoir 50%. Donc moi, comme toute boîte, tu prends des statuts, tu crées une boîte, mais tu n'as pas de pacte. Donc si tu n'as pas de pacte, tu n'as pas de contrat qui indique ce qui se passe, comment tu peux sortir.
Qui spécifie, c'est qui le chef, c'est qui frappe la main sur la table.
Et surtout, comment, non, parce que les statuts le disent, mais comment tu peux sortir? Là, dans les statuts, on dépend que des statuts. Les statuts, c'est figé. En plus, on a fait quoi comme tout le monde? On a pris des statuts sur Internet, on a pris copier-coller, on n'a pas pris d'avocat. On aurait pris un avocat, ils nous auraient expliqué ceci, cela, ils auraient modifié les statuts, ils auraient fait un truc plutôt un contrat. Quoi. Et un pacte, c'est un contrat. Le statut, c'est un truc figé, ça reste un contrat, mais c'est trop figé.
J'ai l'impression que c'est quelque chose sur lequel on revient en cas de conflit, parce que généralement...
C'est ça, mais c'est ça. Pour te dire, en fait, c'est comme un contrat de mariage, pour te dire comment vous allez vous séparer. Voilà. Et que le truc classique, c'est un truc pour tout le monde et chaque structure est différente. Et donc, si j'avais signé ça, là, je suis déjà sorti, j'aurais pris mon cash, je serais parti sur autre chose. Et je serais en train de perdre mon temps depuis 2012, je veux sortir de la boîte, je ne suis toujours pas sorti.
Toi, tu as revendu tes parts, c'est vraiment... il faudrait que tu... Je ne sais pas si tu as déjà fait, mais ce serait intéressant peut-être de produire peut-être un article ou un épisode 0, un épisode bonus.
Non, j'ai fait un article, je te mettrai le lien.
Je vais mettre ça. Je sais que ça va intéresser plein de monde, tu vois.
J'ai fait une vidéo dessus. Et en plus, là, on était quasiment en train de négocier, parce que là, maintenant, enfin, on fait une parenthèse. J'ai été au tribunal, donc le tribunal ne m'a pas donné raison, mais m'a mis ce qu'on appelle un expert judiciaire qui va estimer les parts, parce que lui trouve que les parts sont trop chères. Il m'a fait une proposition, mais qui est trop petite, donc moi, je n'en veux pas, j'ai refusé. Surtout que j'ai perdu du temps, donc moi, j'ai vendu mes parts.
Et de l'argent. Tu payes les avocats qui viennent faire les trucs, c'est du en plus, temps, c'est de l'argent et c'est de l'espace de cerveau. Donc...
Non, en plus, le prix qui m'est proposé, c'est 4 fois moins. Donc 4 fois moins, c'est pas rien, tu vois. Entre presque 100 000 euros et moins de ça. Voilà, ça pique. Même si, bon, moi, ça reste du cash. Hein. Après, le but, ce n'est pas de m'acheter une voiture, c'est de réinvestir dans d'autres business. Donc, là, c'est plutôt un problème d'ego entre deux personnes qui sont plutôt ambitieuses.
Mais toi, qu'est-ce que tu conseillerais pour quelqu'un qui…
Signer un pacte d'associé.
Ouais, je veux dire, au-delà, ça peut arriver. Il y a des gens, sûrement, qui sont dans la même situation que toi, ils n'ont pas signé. Et avec le recul, parce que ça fait quand même des années que ça dure. L'énergie, le temps et même l'espace du cerveau. Est-ce que toi, tu dirais aujourd'hui à quelqu'un de s'en bat les couilles, laisse tomber et puis va sur autre chose quoi.
Beaucoup m'ont dit ça, mais moi, techniquement, comme tu dis, je ne suis pas dedans. Alors que moi,
toi, tu as quand même du recul. Là, on ne parle pas de toi, de ta personne.
Non,
toi,
il y a d'autres personnes qui te régiment. J'ai eu beaucoup d'entrepreneurs avec qui j'ai discuté. Ils m'ont dit, mais pourquoi tu ne sors pas? Tu prends l'argent qu'ils te donnent, tu prends les 18 000 qu'ils te donnent et tu vas ailleurs. Je fais non. Moi, j'ai un orgueil et ça ne me prend pas beaucoup de temps, en fin de compte, techniquement. Moi, c'est juste pour j'ai vendu mes parts, je les ai vendues légalement, j'ai eu un avocat qui m'a fait une promesse de vente. Donc, voilà. Et là, c'est, tu sais, comme on dit dans une négo, je crois que c'est Grant Cardone qui dit ça, c'est toujours le dernier qui abandonne qui perd. Moi, mon cerveau est sorti de là, j'en parle là et des fois, je m'en occupe.
Moi, je pense que ça dépend peut-être de ce que tu définis par perdre. Si perdre pour toi, c'est perdre par rapport à la situation ou perdre de façon globale s'il y avait d'autres business qui étaient connectés à ça, ou alors c'est un gain peut-être de temps pour aller te concentrer sur un truc à plus grosse valeur ajoutée, je sais pas.
C'est l'ensemble. C'est l'ensemble.
Mais je dis, là, c'est pas pour juger ou te dire ce que toi tu dois faire.
Si, mais
moi, je te dis avec le recul parce que toi, tu as. Il y a très peu de personnes qui ont connu cette situation comme toi.
Si, en plus, si, je pense
qu'il y en a. C'est des plusieurs années.
Je pense qu'il y en a.
Qu'est-ce que toi tu dirais à quelqu'un qui est présentement, qui commence dans cette situation? Toi, tu as déjà ce recul. Tu connais plus ou moins où est-ce que ça va aller, tu vois. Qu'est-ce que toi tu
non, dirais mais dans ces cas-là, parce que moi, voilà, ben, ça tombe bien parce que je n'ai pas expliqué.
Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Si, si, parce que non, c'est dans ces cas-là, je t'ai mal expliqué, donc tu n'as pas toutes les infos. Quand je me suis présenté au tribunal, n'oublie pas qu'en 2012, 2013, où je vends mes parts, mm-hmm. je sors de liquidation judiciaire, je suis sur un nouveau projet, je suis à sec, j'ai plus un rond, j'ai la justice sur le dos. C'est marrant, hier, il y a une semaine, j'ai écouté l'épisode de Paul B sur le podcast de Mathieu. J'avais les larmes aux yeux, il était 5h du matin. J'ai pensé à moi parce que moi je grugeais, je n'avais pas d'argent. Les UC m'appelaient toutes les semaines.
Quel épisode ça tu peux voir?
C'est l'épisode de Paul Lay sur.
Ah ouais, j'ai adoré cet épisode.
Et j'ai même envoyé un message à
Paul Lay.
Et en plus, Paul Lay m'a répondu, mais lui, il n'a pas compris. Il ne sait pas que moi, dans mon histoire, j'ai pire que lui. Enfin, pire que lui, pas au même niveau.
Paul Lay, putain. Voilà, c'est presque la même histoire. Le mec, il est parti au state, il dormait sur le canapé, des gens n'avaient pas de maison.
Mais voilà, ton nom. Attends, ce que je t'ai pas dit. Je viens d'avoir mon premier enfant. J'habite à Saint-Cloud, c'est pas donné. J'ai ma liquidation judiciaire, donc il faut rembourser des dettes. Il faut que je retrouve un travail. Enfin, j'ai pas de voiture. Enfin, c'est une vraie galère. Tu te dis, mais. Et pourtant, quand on me voit à l'extérieur, on croit pas. Mais quand on. Voilà, dans le cerveau et en toi, tu sais que t'as. Mais comme t'es ambitieux, tu sais que c'est un chemin par lequel tu dois passer, là, tu le fais. Voilà. Et quand c'est ta nature, tu dis, mais voilà, fais quoi, tu y vas, tu prends pas la tête. Donc, pour revenir sur mon associé, en 2013, je me représente au tribunal, je n'ai pas d'avocat. Donc, comme au tribunal de commerce, tu peux te présenter seul à l'époque, je vais seul, je fais mon dossier de tribunal, donc je perds du temps, je fais un dossier, je me défends et je fais une petite erreur. Je crois que j'attaque mes associés et en fait, je ne devais pas attaquer mes associés, je devais attaquer la structure. Déjà, je fais une erreur. Je vends mes parts, je fais une erreur. Donc, je repars sur une procédure judiciaire après. Et donc, non, dès le départ, je reviendrai toujours à une chose, même si c'est chiant, pour bien faire les choses, toujours passer par les pros, donc prendre un avocat. La personne qui est dans cette situation-là, prendre les conseils d'un avocat et le laisser faire. Ce que je n'ai pas fait. Parce qu'au début, je me suis présenté seul, donc j'ai perdu un an tout seul au tribunal, me défendre pour faire une erreur, pour payer un article 700 et puis repartir sur une autre procédure. C'est aussi pourquoi, donc déjà, là, j'ai perdu du temps. Mon premier avocat, tu vas rigoler, tout se passe bien, on avance, je m'embrouille avec lui. Donc, je dois le radier.
Non, comment tu t'embrumes? Tu t'embrumes avec l'avocat?
Ouais, mais.
Toi, il est supposé être de ton côté quand même. Là, au moins, c'est.
Il a voulu me voler. Lui-même, il a voulu me redemander. J'ai dit, attends, mon ami, donc je l'ai viré. J'en ai pris un autre. Voilà. Mais quand t'es de nature vraie et tu veux te défendre, dans la vie, partout, les gens veulent te voler. Donc, cet avocat-là, il a voulu me voler. Et j'en ai pris un autre, ce n'était pas le même. Hein. Et après, j'ai repris le même qui m'a sorti de la liquidation judiciaire. Parce que lui, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas. Tout s'est bien passé au début, mais après, il a voulu me redemander de l'argent. J'ai dit, attends, je t'ai payé pour un truc, fais ce que je t'ai demandé, rien d'autre. Pourquoi tu veux me redemander encore de l'argent? Donc, je me suis encore représenté sur le tribunal. Bien sûr, c'est un métier. Je me suis fait défoncer devant le tribunal. Même le juge m'a dit, monsieur Henry, j'étais prêt à vous accepter ce qu'avait dit votre avocat, mais vous avez mal fait le produit. On est parti en conciliation, perte de temps. Et donc, je repars à zéro. Donc, chaque fois, je repars à zéro. Et si dès le départ, tu fais les choses bien, tu choisis bien, tu prends de bonnes décisions, tu as les bons conseils, tu réussis tout ce que tu veux. Okay, quand tu vois tout ce que je viens de te dire là, c'est dès le départ, comme on dit, en vente ou en achat, quand tu fais dès le départ le bon achat, tu feras une bonne vente. Si tu fais une bonne négociation, c'est comme les t-shirts. Si j'ai bien négocié, j'avais pris les t-shirts à 1,50€, mais je les vends à 7€. Tu vois, j'ai de la marge. Mais toujours, et là, pour tous les jeunes qui écoutent, tous ceux qui écoutent, toujours bien négocier au départ, ne pas trop te presser ou passer par des pros qui fassent pour vous comme ça. À la fin, vous sortez mieux. Mais quand tu mets la corrélation, des fois, tu vas trop vite, tu fais des mauvaises négociations, et bien, tu te fais avoir à la fin. Voilà.
Ça fait beaucoup, beaucoup de rebondissements quand même.
Et c'est pas fini.
c'est incroyable. Donc, on va essayer un petit peu d'avancer sur cette partie-là. Donc, est-ce qu'on peut revenir? Je pense que c'est à peu près à cette période-là que tu commences à. Tu avais déjà deux appartements, tu as dit, tu as dû vendre un appartement pour financer ce truc qui est finalement.
Après le deuxième, l'histoire est tellement bizarre que je ne peux même pas t'en parler. Tu vois? Parce que j'ai changé de situation. Donc j'avais acheté l'appartement, mais il m'a été repris chez le notaire. Ce qui est rare. Eh oui. Parce que c'est quand tu fais un achat dans le neuf, sur un, ce qu'on appelle le truc sur plan, mais heureusement que je ne l'ai pas fait parce que ça, c'est une
c'était
connerie.
quoi les trucs du Pinot là? Non, Pinot et tout.
Voilà,
Ah, c'est ça?
c'était du Bourleau ou du Celli à l'époque.
Ok.
Je prends ça, ce qui est une connerie. Mais ça, je ne le savais pas à l'époque. Tu apprends
De la
toujours.
défiscalisation pourrie là.
Je le prends à une annuité et un an et demi après, le projet est en retard. Donc, le temps que je fasse ça, ma situation a changé. Et donc, je vais chez le notaire. Et après, non, 2 jours avant, je reçois un courrier du Crédit Foncier qui me dit, mais on aimerait avoir votre situation. Parce qu'en général, quand tu as un crédit, c'est pour 4 mois. Tu peux pas, quand tu as un crédit, c'est 4 mois. Et ensuite, tu dois remontrer que tu es en situation. Et j'avais plus de situation. J'étais en tant que chômeur créateur. Je recréais un projet. Et donc là, en fin de compte, je vais chez le notaire, je signe le papier. Et 2 jours après, on me dit, non, vous n'êtes pas propriétaire. Vous n'avez pas les fonds, vous n'avez pas la preuve des fonds, il n'y a pas de virement. Parce que normalement, le Crédit Foncier n'a pas les documents. Donc, ils ne peuvent pas faire. Pour eux, j'ai changé de situation. Donc, ils annulent le crédit. Pourtant, j'étais chez le notaire, j'ai même dit, voilà, portez plainte, prenez un autre avocat. Moi, chaque année, contre mon reste, c'est de ne plus avoir de procédure judiciaire. Chaque année, j'avais une procédure judiciaire. Je me dis, c'est pas possible, mais je fais que ça, je paie des avocats, je fais que ça.
Je suis sûr que si
Là, je
on
prends.
comptabilise, ça fait quand même plein plein de fric que tu as donné aux avocats.
Et je fais que ça. Pourtant, j'ai un grand respect pour eux, ils font leur boulot, ils ont une spécificité. Quand tu as les moyens, quand tu peux, l'avocat, c'est mieux, parce que ça va libérer du temps et que moi, j'ai dû même apprendre les articles, faire des trucs, ce qu'on appelle les conclusions. Et que ce n'est pas mon boulot. Et je perdais mon temps à le faire. Parce que je n'ai pas les moyens de payer un avocat. Tu vois? Donc, quand je n'ai pas les moyens et que j'ai le droit de me représenter seul, je faisais un premier courrier de relance. Ensuite, je faisais une conclusion. J'allais me présenter au tribunal. À un moment, j'ai pu le faire parce qu'après, ils ont changé la loi au tribunal de commerce. Et quand tu allais en proximité, qu'ils ont arrêté, c'est couillon, tu pouvais te présenter seul. Et des fois, j'ai gagné. Parce que je me présentais bien, j'étais propre, j'apprenais un peu le juridique, même si techniquement, ce n'est pas mon métier et c'est une perte de temps. La vérité, c'est une perte de temps. Donc, par rapport à ta question, quand tu as les moyens, trouve un bon avocat, explique-lui bien ton cas, trouve la personne qui va te défendre et tu vas gagner du temps, parce que tu pourras faire autre chose.
Ouais, tu bosses sur des vrais sujets.
Ben oui. Et ça,
Ouais,
c'est des prises de tête, c'est un métier. Réellement, c'était cool d'apprendre les lois, mais bon, c'est trop compliqué, c'est une prise de temps. Réellement. Non. Et
excellent.
donc, pour avancer, donc j'ai quand même le diplôme, j'arrive pas à ouvrir donc racheter donc les ambulances. Devine qu'est-ce qui se passe avec mon associé?
Il y a une couille?
On
Non.
s'embrouille. Pourtant, on va dire, c'est un cousin. Hein. Et même là, dernièrement, il m'a aidé. Tu vois, on a pu régler les
Ah,
problèmes.
c'est pour vous reparler. C'est juste une histoire sur laquelle vous n'avez pas pu trouver
Non,
un.
non, on a une grosse embrouille parce qu'en fin de compte, voilà. Moi, j'ai quand même, tu as vu, tout le track record que j'avais quand même de l'expérience. Lui, c'est vrai qu'il c'était, il est ambulancier, donc il a son métier. Mais on ne s'est pas mis d'accord sur les parts. Moi, je lui ai dit que c'est mon projet à moi. J'ai un peu d'argent, j'ai déjà créé des boîtes, t'as jamais créé de boîte. Et en plus, à la base, toi, dans le truc, tu vas être ambulancier. Il va être ambulancier associé. Donc, il fera une bonne
Il
partie, mais
sera
c'est
plus
moi qui gérerai la
opérationnel,
boîte.
quoi. Ouais.
Donc, moi, je voulais avoir plus de parts. Je voulais plutôt aller faire les négociations. Lui, il voulait les faire lui. Mais lui, quand première fois qu'on va voir la banque et une négociation, il vient en jean et en basket. Et je dis, attends, mais mon frère, viens en costard cravate, tu vois. Et donc, lui, il comprenait pas. Il voyait ça à la couche. Je dis, non, mais un minimum. Donc, on s'est un peu embrouillé sur ça. Et en plus, il y avait un côté famille, parce que sa mère connaît ma mère, enfin, problème de famille. Donc,
Ça devient
on n'a pas pu
compliqué.
aller. Et dernièrement, on s'est rabiboché. C'est quelqu'un qui est très ambitieux. Donc, j'espère qu'il. Mais voilà, je dis, je suis plus âgé, je connais le truc. Moi, je l'écoute sur l'ambulance, ça n'a aucun problème. Mais l'étude de marché, c'est moi qui l'ai faite. Enfin, il y a plein de choses que je connaissais, j'ai pu faire. Et chacun son métier. Donc, on s'est pas mis d'accord sur. Mais bon, parenthèse, actuellement, j'ai créé une boîte. Tout ça m'a servi. Maintenant, là, je me suis pris des parts, j'ai dit même à mon associé, prends plus de parts, je m'en fous. Voilà, tu vois, c'est des trucs après, tu évolues, tu grandis, donc c'est grâce à ça.
Tu as d'autres focus, ouais.
Moi, j'ai juste créé la boîte, que ça fasse un carton, j'ai rien à battre, après le reste, chacun son truc. Et là, on a bien délimité. Tu fais ça,
Donc tu
moi, je
peux
fais
nous
ça.
parler justement, là on rentre un petit peu dans le vif du sujet par rapport à ce que tu fais actuellement. Même si à
Mais
côté tu bosses toujours en tant que commercial, tu m'as dit en.
j'ai en fait, j'ai 2 choses, parce que là, on fait un grand bond. De 2015-2016, je repars parce qu'en France, tu sais, comme on a du mal à sortir. Donc, j'essaie à tout prix de sortir du métier de l'immobilier. Je suis dégoûté par ça. Surtout que moi, quand je suis entré en immobilier, c'est pour devenir investisseur. Même quand j'ai créé mes 3 agences, c'était pour créer à côté une SCI ou un fonds et acheter des biens. Je me suis dit, tant qu'à faire chez l'immobilier,
En
je vais pouvoir.
entreprise, là, pas plus des trucs.
Voilà. Et je voulais pas vraiment. Rester agent, je voulais me servir du métier d'agent pour faire des investissements à côté. Ce que beaucoup font, même si dans la base, c'est interdit. Hein. Bon, c'est un peu technique. Tu as peur d'acheter un mandat que tu as un mandat. Donc, il faut prendre le bien avant que tu le rentres en mandat. Sinon, tu n'as pas le droit. C'est interdit, tu pars des problèmes. Et il y a plein d'agents immobiliers, après 10-15 ans de carrière, ils ont une trentaine de biens parce qu'ils ont bien fait les choses et qu'ils ont eu les affaires avant les autres.
Yes. Bon, parenthèse. Parce qu'ils sont au cœur du truc, quoi, tu vois. C'est même pas voilà. Ça n'arrive même pas sur se loger, ça reste entre eux et c'est même quand c'est peut-être un truc.
Et même quand tu négocies en général, c'est ce qu'il y a de meilleur. Il faut arriver avant les autres. Quand tu arrives avant les autres, ouais. Tu négocies avant les autres. Et même s'il faut payer plus cher, des fois, tu payes. Parenthèse. Donc, en 2015, je fais une année et demie dans une agence immobilière où on me donne la direction. Même si, pareil, on m'a fait une promesse qui ne s'est pas faite. Donc, bien sûr, ce qui arrive après 16 mois, je m'embrouille avec le patron. Donc, on va au prud'homme. On va au prud'homme. Je gagne les prud'hommes. je gagne les prud'hommes. Et ensuite, comme je n'avais pas
vraiment le problème… Peut-être les titres, ça sera peut-être les titres de l'épisode. Quoi. Je m'embrouille avec…
Non, ce que tu pourrais donner le titre, c'est voilà, c'est que.
Ouais, les gens, ils vont comprendre quand ils vont écouter tout le truc, ils vont comprendre que. Ouais,
ils vont comprendre que des fois, quand t'as pas un profil, il ne faut pas chercher. Quoi. Quand tu es entrepreneur, yes. Même si tu n'as pas les idées, il faut trouver, mais quand tu n'es pas fait pour t'insérer, tu n'en sers pas, ça ne sert à rien. Quoi.
Par contre, cette fois-ci, tu gagnes. Tu avais un avocat.
Mais tu n'as pas su, mais il y a plein d'affaires que j'ai gagnées. Hein. Mais bon,
c'est vrai que tu l'as dit. Il y a quelques trucs où tu as gagné deux fois en rafistolant, en allant t'informer parfois voilà. Même et tout. Ouais.
Donc là, je gagne parce que j'ai une avocate, même si je galère pour la payer. Donc on s'embrouille un peu parce que ben, je la paye comme je peux. Hein. C'est l'histoire. Et j'en reviens avec Paul Lé et d'autres entrepreneurs que tu écoutes. Bon, tu fais des contrats et puis après, tu t'arranges. Hein. Donc je m'arrange avec elle. Je l'ai appelé. Bon, je vais vous payer le temps. Tu n'as pas le choix. Mais je l'ai compris. Donc il me fallait un avocat. Donc je prends l'avocate. On négocie. Même si elle me défend en galérant parce que je gagne, mais je ne gagne pas ce que je voulais. Elle avait demandé 40, parce qu'ils m'ont volé sur des commissions, mais ce n'est pas grave, c'est fait, c'est le passé. Je gagne juste les frais de base, je gagne environ 12 000 euros. Voilà. Et donc, ensuite, en sortant de la boîte, parce que je suis comme tu as compris un peu le parcours, je ne perds pas de temps, j'aurais peut-être pu un peu me poser. Donc, je me dis, qu'est-ce que je peux faire? Je viens de l'immobilier, je venais acheter deux appartements avant, et directement, trois semaines après avoir quitté, j'ai créé une boîte de conseil en patrimoine.
Une boîte de conseil
en patrimoine. Ouais, ouais.
Patrimoine, et c'est quoi l'idée? C'est d'aller vers des profils plutôt entrepreneurs ou des particuliers?
Des cadres pour la vente du cellier, du bourlot, ce que je déteste, donc, ce qui est encore une connerie. Donc, quand tu fais un truc que tu détestes, ce n'est pas logique. Donc, c'est pour ça que pendant un an, ce que je vais faire, je vais m'associer avec tous les Bouygues, les Nexity, donc je fais des contrats avec eux. De mandataire, mais j'ai plutôt faire du résidence principale que du cellier parce que c'est un truc que je supporte pas. Je peux pas vendre un truc que je. C'est comme si je vais aller vendre des cigarettes à quelqu'un que j'aime pas la cigarette. Donc, et même, ça n'a pas de sens pour moi. Donc, même quand je faisais de la bourse, tu vois, quand je misais sur un truc qui me plaisait. Allez, j'aurais jamais misé sur une boîte de tabac, même si elle fait du cash. C'est pas possible, c'est pas mon esprit. Tu vois, je peux pas aller investir en bourse sur de l'alcool. Je vois pas l'alcool, j'aime pas ça. Ça n'a pas de sens. Donc, parenthèse. Donc, je fais ça pendant un moment et je vois que, pourquoi ça mène à ce conflictuellement, c'est que dans toutes les boîtes que j'ai bossées, à un moment, je bossais pour Canal, je bossais pour un réseau de franchisés, je bossais pour aussi un grand constructeur de maisons, j'avais des marques. Et quand moi, j'ai créé pour moi, je n'avais pas de marque, je n'avais pas d'enseigne et j'étais dans l'obscurité totale. Je me suis dit, merde, parce que là, j'ai créé une boîte, mais je suis vraiment, même quand j'ai créé la marque de vêtements, tu vois, j'étais dans mon quartier, je pouvais vendre. Mais là, je me dis,
merde. Tu restais nobody quand il n'y avait pas un truc avec lequel
on pouvait te remarquer, te reconnaître. Et même le monde avait évolué, donc j'étais visible nulle part. Donc je devais que marcher sur mon réseau. Et le conseil en patrimoine, ça ne marche pas. Les compétences que j'avais de porte à porte, tout ça, ça ne marchait pas. J'y faisais un peu de phoning, mais même le phoning, tu peux le faire, mais j'étais moins bon. Parce que maintenant, on va revenir à ce que je fais actuellement, le biz dev. Maintenant, je pourrais le faire parce que j'ai acquis les compétences. Mais à l'époque, conseil en patrimoine, en plus, c'est un produit qui est compliqué à vendre, qui est très cher. Quand tu vends les produits, c'est 200 000, 300 000. Ouais, tu vends pas à l'étranger.
Il faut avoir. C'est un minimum de capital. Quoi. Les tickets d'entrée assez élevés. C'est pas...
Et en plus, tu ne le vends pas en one shot. Tu le vends sur 2-3 rendez-vous. Tu vois, à moins que ce soit les cabinets qui ont compagnon sur rue, ils ont la marque, tu viens. Même si j'avais le produit de Bouygues, de Nexity, les gens venaient acheter à moi. Donc, j'ai pu faire du principal parce que avec des gens que je connaissais. Mais en fin de compte, avec ceux que je ne connaissais pas, je galérais. Donc, je faisais quelques rendez-vous. Mais vite fait, ça m'a vite saoulé. Et je me suis dit, il y a un problème. Le monde a changé. Il y a Facebook, il y a tout ça, je ne le connais pas. Et j'ai commencé à m'intéresser, comme je parle anglais, à tout ce qui est web marketing. Et là, je suis devenu amoureux, j'ai créé mon premier site tout seul. Pas terrible sur One-on-One, qui était même une vraie daube, mais je l'ai fait tout seul, bootstrapé. Après, j'ai commencé à connaître ClickFunnels, WordPress. J'ai commencé à créer, à m'intéresser à l'affiliation. Et là, quand j'ai vu... Non, mon premier vrai business en ligne, c'est Amazon FBA. Mm-hmm. J'ai fait un truc à Gary V, j'ai pris tout ce que j'avais chez moi. Ouais. Et j'ai créé mon compte Amazon, je sais même plus comment j'ai fait. Il y a plein de trucs, des fois, maintenant je me rappelle même plus comment j'ai fait. Je sais que j'ai fait. Tu vois, j'ai dû lire des tutoriels, je les ai fait. J'ai commencé à mettre des produits donc, sur Amazon. Allez, 48 heures après, je faisais une première vente de livres. J'ai dit, waouh, c'est magnifique. Mais ce qui m'embêtait, c'est que je devais aller à la poste. Ça, c'était fin 2016.
Oui, tu devais.
Et ouais, j'arrête donc le MLM, parce que le MLM, je dis, bah, c'est pas pour moi. J'ai compris que le MLM, il faut apprendre à manager. Et je reste toujours un très mauvais manager. Donc, j'arrête ça. Je gagne pas beaucoup.
C'est vrai qu'on n'a pas trop creusé dessus. On va pas non plus prolonger. Mais est-ce que tu as quand même fait. C'est pas un endroit où tu as fait du cash quand même?
Non, pas beaucoup. J'ai rien contre les MLM. Moi, j'aime bien l'esprit des MLM. Quand tu as des bons MLM, c'est super. En plus, ça peut développer les gens. Mais j'ai vite compris que ce n'était pas pour moi. Ce qui est important par rapport à ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est qu'il faut vite comprendre ce qui est bien pour toi. Parce que des fois, tu peux perdre ton temps pendant 5 ans. J'en vois plein qui changent de MLM, mais ça se peut que les MLM, ce n'est pas pour eux. Ils ont essayé. L'esprit est bien, mais ce n'est pas pour eux. Donc, il faut changer. Il faut apprendre à pivoter rapidement. Donc, moi, je pivote sur ça. Je fais un peu d'Amazon FBA. Mais ce qui me dérange, c'est qu'à un moment, je liquide tout. Non, au début, je fais du FBM. Je vais à la poste et je vais devoir. Voilà. Et c'est pas rentable parce que des fois, il y a des points qui sont gros, il faut. Enfin, et ça m'embête. Et
après, les clients ne t'appartiennent pas. Bon, c'est vrai qu'il y a quelques petites techniques.
Non, il n'y a pas que ça. Non, c'est qu'au début. Au début, je vais à la poste faire mes livraisons. Après, je comprends que je peux les envoyer chez Amazon, je le fais. Mais à un moment, j'ai tout vendu, j'ai plus rien chez moi. Donc, je me dis, il faut automatiquement. J'ai fait ce qu'on appelle du sourcing. Et je commence à un peu faire du Alibaba, tout ça, ça me saoule. Je fais un tout petit peu de drop rapidement, je fais un petit peu tout ça, mais ça me saoule.
Donc, avec la même boutique où tu crées un nouveau truc, c'est du Shopify.
Non, je crée aussi une autre boutique, mais ça me saoule, ça me prend la tête. Donc, je commence à m'intéresser à l'époque, c'était John Shaw qui va m'inviter, un marketeur canadien-américain qui a un blog très connu sur l'affiliation et le blogging. Je ne comprends pas que le blogging est pour moi pour l'instant, je regarde que l'affiliation. Donc, je vois aussi une vidéo de Russell Brunson avec Robert Kiyosaki. Et donc, il parle de ClickFunnels. Donc, je prends ClickFunnels. Et là, je me mets fin 2016-2017, je me mets à fond dans l'affiliation. Je m'inscris partout, ClickBank, Amazon. Et deux mois et demi après…
Je vends toutes sortes de produits. Quoi.
Je vends tout, mais je fais ma première vente en mars. Je me rappelle toujours, c'est la première vente qui démarre tout. Je vends 160,50 € une commission à vie LearnyBox, le concurrent. J'ai pris le lien.
Francophone, plutôt francophone.
Je ne sais même pas comment
j'ai fait la vente. Tu donnes des commissions à vie, comme ClickFunnels.
Oui, pareil.
Enfin, à vie, tant que la personne que tu as
entre. Voilà. Et là, on est en avril, je vais avoir ma troisième commission ou quatrième sur le client qui a signé mon premier client, que je l'ai vu là. Donc, tu vois, je vais avoir 200 €. Et donc, je me suis dit, mais c'est un super business, l'affiliation. C'est magnifique, c'est simple. Avec tout ce que j'ai fait avant, créer des boîtes, prendre un local, mais ça, c'est pathétique. Et comme mes modèles.
Je convainc quelqu'un une fois et puis je reçois de l'argent.
Voilà. Et quand mes modèles sont anglo-saxons, le marché est toujours différent. Moi, les affiliés que j'écoute, ce n'est pas ceux qu'on a en France qui parlent de tu gagnes 2000, 3000. Je vois que des mecs qui font une certification fichier. Je vois que ça. Et donc, je suis beaucoup John Shaw. Et en plus, je gagne. En 2017, avril, j'ai créé mon blog. Donc, je commence à créer. À faire la technique de John Shaw, je publie 30 articles pendant un mois. Puis après, je continue. Et pareil, je continue à faire les premières ventes. Parce que comme j'ai fait un peu d'Amazon FBA et dropshipping, j'écris sur ça. Et je fais des ventes par rapport à ça. Donc, ça continue. À un moment, j'ai même monté à plus de 3 000 € par mois. Donc, je me dis, ouais, mais c'est magnifique comme business. Il faut juste que je rajoute un zéro. Ce que je n'ai toujours pas fait. Et donc, tout va aller bien. Mais à un moment, j'en ai marre du blogging. Entre parenthèses, entre-temps, je fais un jeu sur le site John Shaw qui m'invite, que je gagne et qui m'invite à Las Vegas. Pourtant, je n'ai pas un rond. Je suis en galère grave parce que je n'ai plus d'assédic. Je gagne un peu avec l'affiliation, mais ça me permet de payer mes loyers, des trucs comme ça. Mais j'ai quand même 3 enfants. Ouais. J'en avais deux à l'époque. Mais comme je suis déter, je me dis, je vais le faire. Je vais à Las Vegas quand même. À Las Vegas, je prends mon avion parce que j'avais des miles.
Allez,
j'avais
sans retour.
Non, je prends. Non, ce qui est fou, c'est que quand je le trouve, je me dis, il faut que je le fasse. Le gars est millionnaire. Je vais m'associer à lui. Je vais le rencontrer. Je vais voir d'autres millionnaires. Donc, il peut y avoir que du bon. Et je vais au salon de l'affiliation. Donc, c'est un truc que je suivais, que j'ai appris beaucoup grâce au salon de l'affiliation. Mets un lien pour ceux qui parlent anglais. C'est pas mal. Et donc, je prends mon billet retour, mais je n'ai pas l'aller. Je prends l'hôtel, mais je n'ai pas tous les fonds. donc, je commence à gagner un peu plus avec l'affiliation. Donc, ça va, je mets de côté. Mais, comme tu le sais, j'ai une galère avec Payoneer. Et c'est là où j'ai une galère.
Ouais, tu as parlé de
Voilà, voilà. Et donc, j'arrive à prendre mon aller. Difficilement, mais je le prends. Donc, j'ai tout. Mais quand tu prends par booking, il faut payer l'hôtel quand tu arrives sur place. Et quand j'arrive de Las Vegas.
J'enregistre juste ta carte, mais le paiement, ça se fait sur place, quoi.
J'arrive sur place à Las Vegas. Il est tard, je suis fatigué, j'ai jamais été à Las Vegas. Je suis défoncé. La meuf me dit, ouais, il y a un problème avec votre carte. Je fais, oh, merde. Je dis, madame, je vais dormir, je suis fatigué. Après, je suis là, je suis en train de négocier. J'appelle l'autre, appelez votre dame et tout, madame. Je mets quasiment 1 heure à. Ils me font payer en fin de compte jour par jour. Donc, je paye le premier jour, je vais rentrer dormir, je suis fatigué. J'appelle Payoneer, j'ai un galère sur ma carte. J'ai 350 euros qui dorment en tant qu'affilié et puis peut-être 500 euros, il ne va
C'est
pas
pas
me le donner.
débloqué, ouais.
Il ne va pas le débloquer.
En fait, tu vois l'argent, mais il est gelé, quoi.
PayPal, j'attendais un paiement d'un grand marketeur en dropshipping en France. Je l'appelle, on se contacte, il me dit ouais, je te fais le paiement la semaine prochaine. Donc je suis à Las Vegas, j'ai tout fait, mais en fin de compte, j'ai pas de cash. Je dois avoir peut-être du dollar dans ma poche. Et là, tous les jours, je suis en stress. Mais je suis quand même au sein de l'affiliation, je suis content. Je me dis que je vais apprendre. Donc, je rencontre, et c'est marrant, le jour même, je rencontre John Cho, je le rencontre, on discute que 10 minutes, et après, il disparaît, je le vois plus. Il disparaît, je le vois plus. Donc je le vois comme ça, mais il ne va pas discuter. Je me dis, ah, mais en fin de compte, je suis venu pour rien. Bon, heureusement, je
Bah,
rencontre d'autres
j'imagine qu'il y a
personnes.
plein d'entrepreneurs qui sont venus pour justement
Ouais,
rencontrer.
mais je reste quand même le français. Mon accent est toujours aussi basique. Même si je comprends bien, je parle bien.
T'étais le seul, tu penses que tu étais le seul franchisé sur place? C'était un truc de combien de personnes à peu près?
La première année, je rencontre un Canadien qui parle français, donc on discute un peu. Il est même toujours un ami, on discute des fois souvent au Canada. Parce que j'ai quand même fait quelques rencontres. Deuxième année, je reviens quand même. Parce que, je rencontre d'autres Français. Mais il n'y en a pas tant que ça, malheureusement. Là-bas, on est 6 000 marketeurs. Il y a des gens d'Israël. Il y a un peu partout. Donc, je fais cette expérience-là, même si j'ai failli dormir sur la rue, mais heureusement, j'ai reçu au dernier moment une commission. Je vais dans l'hôtel même du salon. Heureusement, le soir, je regarde, parce que comme j'avoue, ah, en plus, j'arrive là-bas. J'ai l'abonnement free en portable. J'ai pas de téléphone, donc je ne peux pas valider. Je prends un Airbnb, mais Airbnb, il faut valider sur le téléphone portable. Et j'ai pas mon téléphone, il ne marche pas là-bas. Personne ne peut me joindre, ni la famille, donc je galère. Et donc, je ne peux rien valider à part un hôtel. Donc, heureusement, le premier soir, je renégocie pour dormir un jour de plus, en payant plus. Mais après, comme il y a ce qu'on appelle le salon, le CSS, c'est le gros salon à Las Vegas, et dès que ce salon arrive, les prix des salles des chambres
Sont
augmentent.
bon, ouais.
Et donc, j'arrive en bas, il me dit, ah, monsieur, on ne peut plus négocier avec vous. Vous payez les 4 jours 700 $. Je disais pas. J'avais déjà prévu pour payer moins. Ils me disent non. Donc, heureusement, je trouve une chambre au dernier moment. Pour le troisième jour. Et le quatrième jour, c'est l'ami que je rencontre, que je te parle canadien. On va prendre deux chambres ensemble, dans les dortoirs à la façon là.
Ah, les trucs
Sinon, ben,
avec plusieurs lits.
voilà. Et que c'est loin, loin de Las Vegas, c'est plutôt le côté downtown, tu mets 1 heure pour venir. Sinon, voilà. Donc, je me dis, bon, j'ai pu échapper à ça, j'ai une belle expérience, mais bon, c'était la bonne galère. Et donc, Payoneer, je vais ensuite les embrouiller pour récupérer mon argent. Et puis, je continue mon année d'affiliation après.
C'est
Donc là,
trop
tout se
ouf.
passe bien. Tout se passe bien, mais comme j'ai plus d'assédic et que j'ai environ en moyenne entre 2 000 et 3 000 euros en tant qu'affilié, c'est pas très. On est en France, ainsi, je serais comme
Ouais,
beaucoup, tu vois.
avec deux enfants, une famille, j'imagine que le
Si,
stress.
tu peux le faire. Mais tu vois, tous ceux qui parlent d'affiliation en France et qui parlent d'affiliation au petit niveau, ils ne sont pas en France. Ils sont en Thaïlande, ils sont à Malte.
Ouais, dans des pays où le niveau de vie n'est pas forcément.
Tu peux faire de l'affiliation et être dans ces pays-là, t'es bien, t'es pas à plaindre. Si tu es minimaliste quand même, parce que moi, à force avec le temps, je ne suis plus trop dans les grosses voitures et tout ça, je suis plutôt minimaliste. J'ai compris que ce qui m'intéresse, c'est créer mes enfants, ma famille, le reste, leur cash. Si le cash il vient, c'est bien. S'il ne vient pas, je m'en fous. C'est plutôt l'esprit d'indépendance classique en général. Donc, je continue toujours l'affiliation, mais je commence à m'intéresser à d'autres choses. Mais le blogging commence à me saouler. Parce que je ne suis pas quelqu'un de l'écrit, même si j'aime bien la lecture et tout ça. En plus, je fais plein de fautes. Et j'ai même des gens qui me font des commentaires, on me dit, mais le fond est bien, mais il y a plein de fautes. Enfin, voilà quoi. Et donc, je commence à m'intéresser. Je connaissais déjà le podcast parce que j'écoute les podcasts depuis plus de 10 ans. J'ai toujours été radio et podcast. Mais je n'ai pas tout de suite tilté que je pouvais faire du podcast. Et heureusement, donc, à force d'écouter Pat Flynn, Johnny Dumas, Lewis Howe, Tim Ferriss et tous les autres, je me mets au podcast, voilà, et à la vidéo. La vidéo un peu avant, parce que je pensais faire comme beaucoup de gens que je regardais, mais je ne suis pas fan de la vidéo. Et donc, je me suis dit, je vais mettre au podcast. Et donc, le podcast, C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est comme ça
que qui a changé chez toi? Tu as quand même plus de 2 ans d'expérience dans le podcast. J'imagine que ça fait plein, plein, plein de rencontres. Ça fait plein, plein de...
Et là, je suis sûr que c'est un truc que je vais continuer toute ma vie par rapport à tout ce que je disais avant, des trucs que tu n'aimes pas. Ça, c'est un truc qui est naturel, tu vois. D'abord, pour tout le monde, parler, c'est plus naturel que d'écrire. On est tous quelqu'un de, on est tous de l'oralité. On parle, on discute, c'est simple, quoi. Il n'y a rien d'extraordinaire. Et donc, après, c'est plutôt le montage, c'est ça qui va, mais le podcast en lui-même, si tu aimes ça, parce qu'il y a plein de gens encore qui, des fois, je discute, ils me disent qu'ils connaissent pas le podcast. Je dis, c'est pas possible, tu vis dans quel monde? Le podcast, tout le monde connaît. Et même des gens que j'ai invités, ils m'ont dit, mais pourquoi vous m'invitez? Je dis, mais attends, et je dois leur expliquer pourquoi, tu as des choses à dire, c'est intéressant, j'aimerais bien te
Mais c'est la question de la vidéo qui vient souvent. Pourquoi tu te casses les couilles? Pourquoi tu vas pas te faire un truc
Tout
YouTube
à
où tout le
fait,
monde va regarder
tout à fait, tout à fait. Mais comparé à YouTube, peut te fermer, ton podcast, il est libre, il est à toi. À moins que, même si moi je passe par Libsyn ferme, mais je passe chez.
Mais au moins, tu as même tes trucs audio. En tout cas, moi, j'ai toujours un back-end. Hein. Je ne supprime pas tous les épisodes.
Tout à fait.
Je les ai. Et même pas que dans mon cloud, quoi, dans mon Google Cloud, mais aussi même
Mais
dans ma machine, dans un disque dur externe, tu vois. Donc, si
disons
tout
par.
pète, j'ai toujours un truc, j'ai toujours une roue de secours pour réutiliser ça sur un autre agrégateur.
Et par rapport à ce qu'on disait, par rapport aux grandes radios sur mon podcast, c'est que là, il n'y a pas un grand groupe qui maintient tout. YouTube maintient toute la vidéo dans son Internet, entre parenthèses.
C'est un
Facebook,
peu
dans les
qui
réseaux
contrôle le
sociaux,
game,
c'est
quoi.
le grand boss. Si demain, ils veulent te dire, casse-toi, tu te casses. Le podcast, personne ne peut le faire. Il n'y a pas de. iTunes, si, iTunes a le pouvoir, mais il y a quand même d'autres. Spotify grandit, t'as SoundCloud, t'as d'autres choses quand même. Tu
Ouais,
vois?
je lisais un article dernièrement, j'ai entendu qu'il y a Spotify qui soit ils sont au même niveau, soit ils sont passés au-dessus, mais ils sont
Disons
au
qu'ils
coude à
sont,
coude, là, franchement.
ils se sont embrouillés dernièrement et puis parce qu'ils avaient un deal ensemble, je crois que c'est iTunes qui donnait je ne sais pas quoi à Spotify. Et Spotify a fait plein de levées de fonds pour Spotify et là pour tout péter. Ils veulent
Ils ont
tout péter.
racheté plein, plein, plein de petites boîtes là. Même encore, si tu connais aussi un agrégateur de podcasts qui est
Si, je
plutôt
connais, ouais.
gratuit, ils ont racheté encore. Ils ont... Donc,
Non, donc il y a donc beaucoup de choses à faire. Donc par rapport à ce qu'on disait, donc maintenant, moi, mon truc, c'est le business en ligne. J'ai bien galéré avec le dur, même si. Je ne suis pas contre comme le dire, parce que dernièrement, je devais, bon, je vais pas encore parler de mes galères, je devais reprendre une laverie automatique qui n'a rien à voir, mais c'est reste du côté plutôt passif. Voilà. C'était une
business dans le
opportunité.
dur. Mais genre, en tant qu'investisseur, c'est pas pour aller
Ben, juste que
tirer
non,
dans
j'ai investi.
l'opérationnel.
Ben non, parce que une laverie, il n'y a rien à faire. Tu crées la laverie et puis tu vas récupérer l'argent le matin et le soir, c'est tout. Donc c'était plus le côté investissement. Donc ça, bon, j'ai dû mettre de côté parce que j'ai eu une petite galère encore. Mais bon, ça fait partie du parcours quand tu es motivé. Parce qu'il y a plein de gens. Je me rappelle quand j'étais chez un constructeur, j'étais tombé sur un mec qui avait créé une boîte et il s'est dit, voilà, plus jamais. Et il y en a, ils vont créer une boîte ou deux, ils vont dire, ah non, plus jamais. Mais voilà, quand tu es un grand entrepreneur, il n'y a pas de plus jamais. Des galères, tu en auras toujours, donc tu continues. Jusqu'à que tu as 70 ans. Entrepreneur, tu peux jusqu'à 90 ans. Tant que tu n'es pas mort, tu
Clairement.
peux créer des boîtes.
Clairement,
Voilà.
clairement. Peut-être forcément, peut-être tu as dû écouter l'épisode avec le mec, je crois qu'il doit avoir 76 ans cette année, Jacob Abou, tu connais? Le
Ah si,
journal de l'Auto.
je l'ai entendu, je crois, mais c'était chez qui? Parce que c'était pas chez.
Si, c'est JDY.
Ah, je l'ai entendu, mais chez quelqu'un d'autre, chez. Comment ça s'appelle?
Il est aussi
Chez.
passé chez Pauline Ignot, le
Je l'ai entendu chez
crétin.
Pauline Lignon. Je l'avais entendu chez Pauline Lignon. Voilà, tout à fait.
Et
Mais
lui,
voilà.
il a 76 ans et on lui pose même la question pendant l'interview, mais qu'il n'y a pas un moment où tu t'arrêtes, il dit jamais, tant qu'il peut respirer, il va continuer, quoi. Tu vois, il a racheté, je ne sais pas combien d'entreprises il a investi, au moins dans plus de 400 entreprises pendant toute sa carrière. Il a construit des boîtes, racheté des boîtes. Et en plus, à l'époque, tu vois, ce n'est pas entrepreneur, vraiment entrepreneur dinosaure. À l'époque, là, avec les plaques, les affiches publicitaires de l'époque, tu vois, donc, il connaît un petit peu tous les différents mondes. Il a traversé toutes les crises. Donc, ça confirme clairement ce que tu dis, que tu peux être entrepreneur jusqu'à X années, quoi. La retraite,
Non, mais surtout que
c'est
c'est
fini.
l'entrepreneuriat, c'est le vrai virus. Là, on a un virus tout pourri qui nous fait chier tout le monde, mais quand tu es entrepreneur, c'est un vrai virus et tu veux le faire jusqu'à la fin de ta vie. Souvent, même moi, je me suis fait avoir en disant oh, je voulais faire du passif, je vais dormir, mais je pense que si demain ça m'arrive, c'est pas possible. J'ai toujours un nouveau projet en tête. Et si c'est pas moi, et quand c'est pas moi, j'en vois un autre, je dis ah, mais j'y ai pensé, mais je l'ai pas fait. Je vois d'autres trucs, je dis mais c'est une super idée, j'y avais pensé, mais je l'ai pas fait. Parce que ben, voilà, des idées, il y en a plein. Et l'entrepreneuriat fait vivre le monde. Si demain tu ne crées pas de boîte, tu n'as pas de boulangerie, tu n'as pas de truc, il faut que des gens créent des projets. Là, on ne parlerait pas si quelqu'un n'avait pas créé Libsyn ou Zoom. Il faut des gens. Ben, le monde, c'est ça, c'est la création. Et quand tu as la chance d'avoir l'envie et les compétences, ce n'est pas la même chose. On en revient au début.
Je partage.
Moi, je fais tout pour développer et acquérir mes compétences. Et si je ne peux pas, ce que j'ai apprécié avec le temps, je vais faire par les autres. Ce que je peux faire par les autres, je fais maintenant, je délègue au maximum. Moi, si je peux faire que moi, ce que moi, je sais faire et développer un peu mes compétences et ensuite me faire aider par les autres, je fais, je paye les autres. Voilà. Maintenant, dès que j'ai un projet, je n'ai pas à faire l'avocat. L'avocat fait son boulot, le comptable fait son boulot. La personne qui peut faire moi-même actuellement mes textes, je fais tout pour que les gens les écrivent. Moi, je ne peux pas l'écrire.
Pourtant, toi, tu restes plus sur la partie qui te fait kiffer. En plus, tout, c'est là où il y a vraiment plus de valeur. Quoi.
Comme on dit, parce que j'ai eu plusieurs personnes que j'ai interviewées sur mon podcast qui disent voilà, tu fais ce qu'on appelle ton sweet spot, ce qui est vraiment ton le truc qui est où tout est bon. Pourquoi tu veux faire un buteur, le faire gardien ? Ça sert à quoi ? Ça n'a pas de sens. Il va se prendre des buts. Donc, quand tu es buteur, va buteur. Et voilà, c'est pareil. Clairement, chacun fait son truc.
Yes. Donc, pour revenir sur ton podcast actuellement, c'est un petit peu l'un des trucs que tu as. Je crois que c'est même ça qui te permet de faire la promo des différentes activités qui tournent tout autour.
Disons que j'ai mes exemples, comme j'en parlais sur mon podcast avec toi et en off, les exemples sont ceux que j'ai cités, Pat Flint, Johnny Dumas et tous ceux qui ont… Pour réussir en ligne, il faut avoir au moins un canal qui marche bien. Moi, j'ai tous les canaux. J'ai l'écrit, j'ai YouTube, j'ai tout ça. Mais dans aucun de ceux-là, je suis passionné. L'écrit, j'ai bien aimé au début parce que c'est techniquement, on m'a souvent dit que on m'a souvent descendu à l'école par rapport à ça. Donc, je me suis dit, moi, je ne vous demande rien. Je ne vous ai rien demandé. Je fais ce que je veux. Je crée mon blog. C'est la liberté du podcast et du blog. C'est que tu crées, tu fais, tu ne demandes rien à personne. Tu vois. Et en plus, si tu as un truc à partager, bah, tu le fais naturellement. Parce qu'avant, quand on passait son podcast, le monde était bloqué. Tu voulais écrire un bouquin, tu passais par tout un système. Maintenant, tout est ouvert. Tu voulais devenir influenceur, tu as une belle tête, tu veux devenir mannequin, il fallait passer par. Maintenant, tu vas sur Instagram, tu montes tes photos, je l'adore.
Si les gens, ils kiffent. Bah,
on est un monde. Et comme j'écoutais Robert Kiyosaki il y a 2-3 jours sur un podcast, il disait... L'entrepreneuriat n'a jamais été aussi simple. Lui, quand il créait avant, comme tu disais avec M. Abou, les gens galéraient pour créer. Même moi, quand j'ai créé avec mon agence, j'ai dû faire mettre le ce qu'on appelle le droit d'entrée, le pas de porte, enfin tout ça. C'est une galère. Maintenant, mais tu crées. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Tu crées facilement.
Non, pour la création, ça ne veut pas dire si le projet est pour la création. Mais pour la création de l'entreprise.
La création, et c'est vrai que tu peux aussi scaler facilement parce que tu as l'Internet. Le monde va plus vite. Mm-hmm. C'est comme je disais à mes enfants tout à l'heure, je parlais avec eux, je dis, mais le monde que vous aurez maintenant et après, on regardait un truc sur la réalité virtuelle. Je dis, mais votre monde, il va être sans. N'oubliez pas les enfants. Moi, quand je suis né en banlieue, il y avait 3 chaînes, il n'y avait pas de voiture. Enfin, il y avait des voitures moins rapides. Donc, le monde va trop vite. Et là, on ne sait même pas tout ce qui va arriver. En 10 ans, Et même pour ceux qui créent des blogs maintenant et ceux qui créent il y a 5 ans, il y a 10 ans, ils disaient, mais avant WordPress, c'était une galère. Maintenant, créer un WordPress, c'est pathétique.
Ouais, c'est rapide, ça se fait. Même pour quelqu'un qui n'a jamais touché. Et justement, pour faire le parallèle avec 10 000 codeurs, on a des profils comme ça qui ils ont fait à l'université, ils faisaient chimie, ou ils faisaient peut-être, je sais pas, un truc littéraire, plus littéraire, tu vois. Ils se retrouvent en train de faire des trucs du numérique, tu vois. Parce qu'il y a plein de tools comme ça qu'on a créés. Tu vois, quelqu'un qui se lève, qui n'a jamais touché à un truc informatique, il veut créer une boutique en ligne, il part sur du Shopify sans connaître un bout de code. Il fait une boutique, il met en ligne et puis il vend ses produits.
C'est ce que disait le podcast qu'on écoutait ensemble. Enfin, on n'a pas écouté ensemble, tu vois, on l'écoutait différemment, mais c'est l'avantage du podcast. Fabien Gradin, je crois, il disait que on est dans le mode du coding et que maintenant, grâce aux plateformes, tout le monde peut créer parce qu'on a libéré la création. Parce qu'avant, c'était un ingénieur ou quelqu'un qui était un peu dans le technique.
Ouais, il fallait déployer beaucoup de ressources. Même au niveau de la tech, au niveau de l'outil, c'était des gros ordinateurs comme ça, tu vois.
Oui, maintenant,
tu as ton téléphone, tu ouvres ton application Shopify, tu peux me faire des trucs directement à partir de ton téléphone, tu vois, tu reçois les bons.
Et donc, si tu es un peu créatif, et ambitieux, tu gardes ton boulot, comme je dis souvent, pour payer tes charges et vivre, et le soir, tu prends.
Tu peux rentrer plus large, quoi. Donc,
Et le soir, tu prends 2-3 heures sans prendre de risque, tu essaies de créer une communauté ou un business. Tu as une idée un peu différente. Voilà. Nous, on a le podcast, on prend un peu de temps. Là, on est dimanche. Voilà.
Yes. C'est ça. Donc, il y a le podcast et clairement, tu l'idée, c'est
Techniquement, si on n'avait pas eu le Covid, j'aurais eu mon séminaire. Mon séminaire, malheureusement…
C'est vrai, justement, tu avais prévu…
J'ai dû le décaler. Donc là, normalement, il est pour le mois de décembre, je crois, le 5 ou le 6. Il faut que je vérifie. Et là, pareil, je vais monter une équipe. Là, je commence tout seul, je pense, le problème. Puis ensuite, je vais essayer de monter une équipe parce que ce n'est pas un truc que tu fais seul. Et c'est
quoi l'idée de ce séminaire-là? Il n'y a que toi qui intègres ou tu ramènes comme ça quelques plusieurs segments d'expertise.
Dans celui-là que j'avais en mai, j'avais interviewé 5 entrepreneurs que j'avais invités avec qui je discute, où on est bien. Donc, si demain, je fais un truc sur le podcast, bah, par exemple, je t'appellerai, parce que là, je vais le faire sur 2 jours. Et puis, donc, chacun parle de sa thématique et de choses autour de l'entrepreneuriat. Voilà.
Yes. Bah,
donc, j'avais le séminaire. Après, j'ai toujours l'affiliation. Et comme toi, j'essaie de développer le sponsoring, même si j'ai contacté quelques deux sponsors.
Ils sont aller bloqués. Sur quoi comme stratégie de sponsoring des genres, des entreprises ou des institutions qui donnent,
non, plutôt,
tu aimes bien le service que tu vas vendre au CPC ou un truc plus.
Non, c'est, mais malheureusement en France, on est bloqué au CPM, donc c'est par rapport à 1000 écoutes. Et donc, c'est plutôt un partenaire qui est lié à l'entrepreneuriat, au développement personnel, à la santé. Enfin, tout ce que moi, dans mon podcast, tout ce dont je parle et qui peut intéresser l'audience. Comme
t'as compris, comment est-ce que tu mesures et comment est-ce que tu c'est genre, tu places juste le spot là sur l'épisode sans forcément.
Mais comme je fais actuellement, moi, je présente mon sponsor qui est un sponsor affilié. Donc, voilà, je mets mon lien.
C'est on peut le citer plus.
Ah ben j'en ai plusieurs.
Ah, pour chaque épisode, donc, il y a chaque fois t'as un nouveau.
Chaque fois je change donc le but de changer, c'est pour pas saouler aussi l'audience quand ils entendent toujours le même sponsor, c'est un peu chiant. Mm-hmm. Donc je change et c'est des trucs qui vont servir à l'audience et que moi que j'utilise. Par exemple, quand je sponsorise, je fais un podcast Learnybox, je mets mon lien, je mets mon site avec mon lien et je dis aux gens d'aller le prendre. Et là c'est même précisément une annonce toute faite que j'ai préfaite. Mmh. Jusqu'à coller, placer quand je fais mon.
Oui, j'imagine sûrement entre les intros et le corps. Et
Je les mets au tout début en intro. Tout début.
Ah, tout début, ok.
J'en parle avec Grégory Puy qui. Bon, il a raison. Même si je le vois beaucoup aux États-Unis, des gens qui le mettent maintenant en milieu, ce qu'on appelle mid-roll. En France, ce qui paraît, c'est pas trop vu, ça marche pas trop. Moi, si j'avais une audience de 200 000 par écoute, je le ferais peut-être parce que les gens, bon, ils seraient habitués. Mais c'est plutôt à la fin, au début, que ça marche mieux qu'au milieu. Il faut vraiment avoir un podcast qui fasse 2 heures et que les gens ont l'habitude d'écouter, quoi. Et en France, on a l'impression que personne ne le fait. Donc, c'est que c'est pas. Il faut toujours pas oublier qu'on a un marché à part, la France. Pour tout ce qu'on fait, on a toujours un marché à part. Donc, on aime bien copier sur les États-Unis, mais il ne faut pas tout copier parce que ben, on
n'est
pas.
Ben, oui. Et toi, est-ce que c'est quelque chose que tu parles, c'est quoi les chiffres au niveau de ton podcast après 2 ans? Est-ce que tu as eu ce boom-là, peut-être, avec le temps?
Non, j'ai pas la croissance que j'aimerais. Là, mon meilleur mois, c'était 2000 écoutes. Mm-hmm. Ce qui est bien parce que non, au début, j'étais pas rassuré. J'ai eu même une personne de la radio que je voulais faire informer, mais bon, vu que j'aime pas les gens de la radio à la base.
J'aime la radio. Il y a Bernard qui a plus de, je crois, il doit être dans les 300 épisodes. Lui, il me dit qu'il fait 400, 600 écoutes par épisode.
Oui, mais après, lui aussi, il a raison. Lui aussi, il a raison. Non, mais surtout que lui, il a raison comme Pat Flynn, parce que j'aime bien ce que dit Pat Flynn et aussi ce que dit Marco, parce que j'ai aussi interviewé. Que quand moi, je fais mes 2000 par mois, ça correspond à un demi-zénith. Le zénith, je crois, c'est 5000 personnes. Donc, toi, comme moi, quand tu fais même si tu fais que 500, tu fais que 500, 500, c'est 10 classes d'école. Donc, tu as 500 personnes qui t'écoutent. Et quand on parle d'écoute, c'est pas écouter 10 minutes. Hein, on n'est pas sur YouTube.
Oui, on est
sur YouTube. Elles t'écoutent une demi-heure, une heure. C'est qu'elles sont
fidèles. Ça montre pas la puissance, en fait, par rapport à YouTube. Ça défile, c'est plus facile, tu vois. Mais c'est pas aussi calé. Quelqu'un qui t'écoute, débiter comme ça en parole pendant 1 heure, 1 heure 30, quelque part, quand même, c'est plus intéressant lorsque tu glisses, je sais pas, un produit, un service qui reste adapté et cohérent par rapport à ce que tu partages dans ton podcast. Si vraiment il est dans le truc, dans la cible, dans le bon moment, dans la bonne vibe, il pourrait forcément passer à l'action, quoi.
Et te rapporter. C'est pour ça, ouais, le podcast, moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est super intime. Même quand moi, ceux que j'écoute, j'ai l'impression que je les connais, quoi. Et j'ai, comme je te dis, comme toi, j'en écoute matin, midi, soir, quoi. C'est de la folie. Donc, même madame, des fois, je faut faire attention parce que j'ai toujours mon casque. Donc, elle dit, mais on peut te parler.
moi, c'est pire, franchement. Et là, c'est encore pire parce que avec le confinement, tu vois, t'as plus ces moments où tu es tout seul, tu vois. Là, tu n'as pas besoin de justifier. Mais là, en confinement, tu es quand même obligé de justifier le fait que, ouais, tu vois, t'es dans ta bulle, tu vois.
Moi, j'ai une grande chance, c'est que je dors, même si je dors moins tard, mais je peux dormir tard et je me lève très tôt. Donc, quand je me lève, il n'y a personne. Donc, je peux écouter des fois une heure, une demi-heure de podcast. Je m'occupe de mon petit. Après, donc, les autres sont là. Je peux me repartir bosser. Tard le soir, je regarde pas la télé, donc bah, automatiquement c'est YouTube ou podcast ou travail. Donc voilà, j'ai quand même au moins 2-3 heures où je peux écouter du podcast. Et même pendant que je fais mon business, parce qu'on en a pas parlé, mais Moi, je suis consultant BizDev parce que
Bon,
j'ai une
justement, c'est le
activité.
deuxième truc que tu fais.
Comme, comme,
Mais peut-être qu'on
comme.
peut conclure un petit peu sur le podcast et ensuite on passe sur le BizDev parce que je sais que tu es en train de lancer aussi un programme d'accompagnement slash formation pour le podcasting.
Normalement, j'ai deux gros projets qui étaient déjà prévus l'année dernière, mais qui sont l'écriture d'un bouquin. Donc ça, je me suis mis d'accord. Normalement, je vais le sortir pour l'année prochaine, mais ça prend un peu de temps.
Yes.
Et la formation, même si elle n'est pas finie, parce que comme je te dis, ce n'est pas un truc qui était naturel pour moi. C'est parce qu'on me l'a demandé et parce que mes modèles, qui sont anglo-saxons, sont dans le même esprit que moi. Ils font de l'affiliation, ils font des séminaires. Je me suis dit, bon, bah, y a une logique, quoi. On est frères à distance de business. Bah, s'ils le font, pourquoi pas? Je peux le faire. Je fais du podcast depuis un petit bout de temps, j'en écoute depuis beaucoup. Donc, le contenu, je l'ai, je peux le faire. Voilà. Et en plus, techniquement, à part Marco Bernard qui avait une formation, il n'y a pas de formation. Il y avait une formation, mais faite par une personne de la radio que j'ai contactée. Réellement.
Quelqu'un de la radio qui fait de
Oui,
la
c'est.
formation pour
Non, c'est une personne de Radio France ou de je sais pas qui,
Et ici,
qui a une
c'est.
association et qui est pas très connue et qui propose des formations. Mais quand moi je suis venu, par rapport à une autre personne, j'avais déjà 60 épisodes. Donc on a discuté un petit peu, mais on s'est pas mis d'accord. En plus, moi directement, quand elle m'a dit oui, moi je fais de la radio, j'ai dit, moi je m'en fous. La radio, je m'en fous. Moi je suis podcasteur. Donc déjà, il y a eu un clash dès le départ parce qu'elle se vantait. J'ai dit, mais moi ta radio, je m'en fous. Je vais pas faire de la radio, je vais faire du podcast. Donc elle était un peu
Est-ce que sa
mitigée.
formation, c'est du podcast ou du de la radio? C'est plus ça, parce
Non,
que
en fait,
c'est pas
quand
la même
souvent,
chose, c'est pas le même
non,
temps.
souvent, sou, souvent,
Une
sou,
radio peut se diffuser sur format podcast, mais la radio,
non,
c'est
mais
pas forcément le podcast.
sou,
Enfin, ça, c'est mon appréciation à moi. Le ton,
non,
c'est pas
souvent,
pareil.
souvent les vrais gens de la radio, les vrais gens entre parenthèses, hein, ont une formation de journaliste. Donc ils ont comment ils appellent une ligne
Ils ont
éditoriale. Donc
la carte.
un parler de ça. Et moi je lui dis mais je m'en fous de ton truc. De quoi tu me parles? Est-ce que tu fais ci? Je dis, mais moi je te parle juste, donne-moi des éléments, mais ton truc éditorial, faut pas, je veux pas aller à l'école, je veux pas un truc trop. Je veux quand même que ça reste podcast, libre. Et eux, je pense que c'est pas son délire, quoi. Et même quand moi, on en a parlé en off, moi j'ai grandi avec les radios libres. Donc j'aime cet esprit-là. Est-ce que maintenant la radio, je l'écoute moins? C'est un truc qui est trop formaté. Et moi j'ai adoré quand je galérais
Moi,
pour
j'écoutais
écouter une
aussi beaucoup de
radio.
radios hein, plus jeune, mais franchement, c'est pas les radios conventionnelles. C'est plus, tu vois, un truc du genre couleur tropicale, tu vois, un truc un petit peu
Voilà.
là où, tu vois, c'est de la radio, mais tu sens que le mec, il n'a pas un script comme ça, il est en train de lire et tout, tu vois. Il parle, c'est comme si tu étais assis à côté de lui et il te parle, tu vois.
On en revient à la même chose
C'est plus ce rythme-là, tu vois.
On en revient à la même chose.
Ils
Est-ce
sont
que
très
est-ce
peu
qu'on
qui
a
le font comme ça.
on en revient à la même chose. Est-ce qu'on n'a pas pu développer? Mais c'est marrant, c'est qu'on revient sur peut-être un élément qui est important, la passion. Donc sur les 10 éléments qu'on voulait indiquer, la passion. Quant à la passion, les podcasteurs ou les radios libres, c'est des gens passionnés, ils ne gagnaient pas d'argent. Mais ils faisaient de la radio. Maintenant, là, c'est plutôt des gens qui sont formatés, qui sont en business. Il faut faire ça, faut mettre une pub super naze. Tu couples. Non, ça n'a pas de sens. Non, non. Moi, si tu veux me former à radio, je m'en fous. Je ne vais pas faire de la radio, je vais faire du podcast. Voilà.
Yes.
Je veux faire un format de 2 heures, 3 heures, 10 heures s'il le faut. Voilà. Je veux qu'une personne m'écoute, on discute, on échange. Je ne veux pas qu'on fasse de la radio. Non, c'est pas ça.
Est-ce qu'il y aurait un truc, vu que tu es encore en train de préparer justement ce programme-là, pour moi, je sais pas, une sorte de liste d'attente ou bien, je sais pas, pour les personnes qui seraient potentiellement intéressées par
Non, après, les gens peuvent me contacter si vraiment ils sont
peut-être la
intéressés.
newsletter qu'on peut dire peut-être sur partie de la
Non, surtout que
newsletter
moi,
qu'on peut contacter?
je fais du coaching, donc je pourrais faire aussi peut-être la formation en coaching. Ils peuvent aller sur juste m'envoyer un mail,
On va mettre ça en commentaire.
contact@-du6henri.fr, donc contact@-du6henri.fr.
Yes.
Donc, comme je n'ai pas
On va
encore
encore
sorti.
rajouter ça en description pour ceux qui
Voilà,
si c'est pour avoir plus.
je pourrais le faire en coaching si la personne vraiment est vraiment motivée à le faire.
OK.
Et ensuite, bah, attends, la formation, là, je travaille dessus, même si c'est pas. En plus, je t'ai aussi dit que j'ai un autre projet sur Amazon FBA qui avance de plus en plus, parce que là, j'ai envoyé les papiers à la CCI, mais bon, avec les problèmes de poste et autres, c'est compliqué. J'ai la
Ouais,
crasse, j'ai le compte,
le
j'ai
virus.
tout, mais ce qui me
Pour
manque.
ceux qui nous
Ton
écoutent
compte.
plus tard, nous sommes en plein pandémie, la deuxième phase, parce qu'en France, on ne sait pas s'il y aura une troisième, une quatrième, une cinquième phase. Donc, nous sommes en deuxième phase de confinement en avril, fin avril. Donc, les choses ne fonctionnent pas normalement et c'est justement la raison pour laquelle il y a un petit peu un petit frein par rapport à ce projet que tu es en train de lancer en parallèle sur Amazon FBA.
Voilà. Et donc là, voilà, j'ai fait avec un associé, parce que je sais très bien, je ne pourrais pas. Tu vois, même avec la galère qui m'est arrivée, je me suis dit, pour ce projet-là, il me faut un associé. Et actuellement, même mes projets d'autres que j'ai, que je vais mettre de côté, je cherche les bonnes personnes pour le créer avec eux. Je vais rien faire, je peux faire tout seul. Tout seul, c'est mon podcast et tout ça. Mais après, maintenant, dès que je peux m'associer, je le fais. Après, maintenant, je sais qu'il faut aussi un pack d'associés et qu'il faut juste bien délimiter les rôles. Et puis voilà.
Propre. Donc, on revient un petit peu donc, sur justement ton autre activité de biz dev. Déjà, ça, c'est impressionnant avec tout ce que tu viens de citer, le bouquin, le podcast, le séminaire, parce que s'il n'y avait pas cette pandémie, tu devrais normalement être en plein dedans. Et en plus de ça, en boulot de biz dev encore, ça fait beaucoup. On se demande comment est-ce que tu réussis à concilier tout cela en même temps. Donc, parle-nous pour le biz dev. C'est clair que ça doit être pour des raisons alimentaires aussi, pour gagner de l'argent, vu que là, il y a des commissions, forcément.
Alimentaire, mais il y a une chose qui est comme toi, parce que je crois que tu aimes bien la startup, c'est quand tu fais du biz dev, souvent la biz dev, c'est lié à la startup. Donc, moi, tous les jours, je fais du B2B. À l'époque, j'étais en B2C. B2C, c'est pas que j'aime pas, mais c'est que j'aime plus. Donc, j'en ai fait beaucoup. Et comme souvent, quand tu as fait beaucoup de B2C, souvent, tu en as marre sur le particulier. Et là, déjà, je vais revenir pourquoi je suis venu dessus. J'essaie de, encore, parce que j'avais besoin de cash, de m'insérer après tous les projets de création qui marchent moyennement bien. Comme on dit quand en France, quand tu crées, soit tu as une réussite et tu es le roi du pétrole, on parle de ton bien, il est magnifique, et donc tu as du cash. Soit tu as un échec, et nous, en tant qu'entrepreneurs, on n'a pas la CEDIC. Donc, quand tu as un échec, tu as les poches vides, tu as les morales.
Tu te débrouilles.
Tu te démerdes et tu dois revenir dans le monde du travail. Quand aux États-Unis, on va dire, mais tu as échoué, tu es une star. Ici, on va dire, on va taper sur le pôle, bien, tu as essayé de devenir entrepreneur. Bon, redescends en bas de l'échelle, mais c'était un bac plus 4. Ouais. Donc, on donne des boulets qui sont un peu merdiques, donc il faut accepter. En plus, tu as du mal souvent à sortir de ce que tu voulais faire. Moi, dès que j'envoie un CV dans l'immobilier, on me dit oui, mais moi, je peux faire de l'immobilier. Donc, quand tu veux faire du commercial, tu veux changer. J'ai voulu souvent faire de la finance et de la start-up pure. On me disait non. Et là, on m'a donné l'opportunité de faire du biz dev. Au début, je ne connaissais pas. Je me dis, c'est quoi cette connerie? En plus, faire du phoning. Moi, je ne suis pas un mec du phoning. Parce que je viens du porte-à-porte, je viens du terrain. Et j'ai testé. Mais comme c'est qu'il faut avoir de la niaque, de la passion et avoir une vraie tige du travail. Un élément qu'on voulait aborder ensemble sur ce qui est gratuit, donc la passion, on revient, c'est gratuit. Avoir une éthique de travail, d'être sérieux et d'être motivé, c'est gratuit. Donc ça te permet de réussir. Et donc ça, moi, quand ils m'ont donné l'opportunité, je reviens de Las Vegas avec toutes les galères qu'il m'a eues. Je reviens de Las Vegas, j'ai plus d'ACEDIC, j'ai plus de ce qu'on appelle le projet de retour à l'emploi. J'ai 2 000 à 3 000 euros tous les mois en tant qu'affilié, mais c'est pas assez. Je suis propriétaire d'une maison, j'ai 3 enfants. Donc, je me dis, il faut que j'ai une activité fixe, entre parenthèses, parce que là, je suis comme un micro-entrepreneur. J'ai créé une structure indépendante. Mais comme ça, l'argent de l'affiliation, je ne le touche pas. Je m'en sers pour payer quelques charges de la boîte. Et puis, je crée ma trésorerie. Et donc, je commence en biz dev sans vraiment avoir de grande motivation. En fait, je vois que je ne suis pas mauvais. Je suis même très bon. Là c'est plutôt conseillé faire ce qu'on appelle du cold calling, appeler 100-200 personnes dirigeants par jour. Donc tous les jours je parle avec des dirigeants, donc j'adore ça. Ou sinon c'est des CTO et autres,
mais ce sont des personnes qui sont pas forcément c'est pas des personnes qui ont été générées par peut-être une campagne de
non, j'ai un logiciel
des emails scrappés ou des numéros de téléphone scrappés sur
j'ai un logiciel de prospection qui s'appelle Corporama, ou des fois je peux en avoir d'autres, ou sinon je vais sur LinkedIn et je vais sur le nom de la boîte et j'appelle l'assistante, bonjour, je suis monsieur Henri.
Ça veut dire que tu dois avoir sûrement du sales navigateur pour voir derrière un petit peu qui se cache derrière.
Je l'ai pas utilisé au début,
la hiérarchie des boîtes.
Je ne l'ai pas utilisé au début, maintenant j'utilise parce que ça coûte, c'est pas donné. Donc ça, j'utilise celui de la boîte.
Balles, si je ne me trompe pas, par mois.
Voilà, donc là, j'utilise des fois celui de la boîte. Et puis, bon, pour faire rapidement, donc pendant 1 an, j'ai fait ça sur différentes boîtes, plutôt des startups ou des boîtes plutôt dans la technique. Donc tout ce qui est GED, tout ce qui est logiciel, tout ce qui est. Là, je suis à fond dans la data. Donc tout ce qui est big data, donc c'est un truc qui m'intéresse. Donc en plus, tu vois, avec toutes les expériences que j'ai eues, je reste indépendant. Donc il n'y a personne qui m'emmerde. Donc, je travaille à la maison. Donc, moi, ils ont vu que j'étais loin et que j'étais assez autonome. Donc, le matin, je me lève, je n'ai pas à prendre le métro et autres. Je fais mon programme parce que je suis sérieux. Je commence même souvent avant, à 8h30. Je fais du cocooning des dirigeants et je suis payé à la journée. C'est ce qu'on appelle un TJM. J'ai un taux journée moyen, donc qui est plutôt intéressant. Et en plus, j'ai un pourcentage sur les ventes que je fais. Et souvent, les ventes que je fais, c'est du B2B. C'est des produits qui se vendent à 10. C'est des produits à 10, 20 000. Et des fois, le produit actuellement vaut 100 000 euros. Donc voilà, tu as une marge plutôt importante. Donc tu peux, si tu fais bien les choses, il faut vraiment être bon, faire entre 60 et 100 000 et plus à l'année. Donc tu restes indépendant. Et en plus de ça, le soir, j'ai toujours mes activités d'affiliation, de podcasting. Bon, tout ça est lié, hein, parce que souvent on va dire, mais il est trop diversifié. C'est lié, parce que c'est une
Non,
seule
c'est...
structure. Et puis Amazon FBA, c'est à part. Mais comme j'ai un associé, je ne suis pas tout seul. Et surtout, qu'on va revenir sur un truc. Quand j'ai fait Amazon FBA, n'oublie pas que pourquoi je n'ai pas poursuivi sur Amazon FBA, c'est que je n'aimais pas le sourcing. Et donc, j'ai trouvé une personne qui aime le sourcing. Je lui ai dit, toi, on s'associe
Sorte
ensemble, je te donne.
d'agent.
Tu fais que ça, tu fais que sourcing et moi je m'occupe du reste. Le web marketing, c'est mon boulot. Le listing, c'est le faire. Tout, c'est faire. Toi, tu fais que le sourcing. Voilà, comme ça, je me suis bien associé. Dès le départ, il m'a dit, Urs, serre la main. En plus, je le connais, c'est mon frère. Donc voilà. Donc.
C'est mon frère.
Donc, non, parce que en réalité, j'ai fait un peu le tour. J'ai cherché du monde et je me suis dit.
Il est trop loin pourtant et c'est
Non, non, c'est que lui,
évident,
non.
t'étais là.
Non, c'est que lui, il est entrepreneur, il est indépendant, il a fait du MLM avec moi et depuis 3 ans, il est bloqué dans MLM. Moi, je lui ai dit, mais est-ce que tu avances avec le MLM? Tu n'as pas fait le tour, est-ce que tu peux pas faire autre chose? Et je lui ai expliqué un peu Amazon FBA, au début, il ne comprenait pas. Je lui ai expliqué, il m'a dit, ah, mais c'est pas mal. En plus, techniquement, si on marche bien, à un moment, c'est passé. Je lui ai dit, ouais, c'est passé en plus. Surtout que moi, tu fais le sourcing, après, tu peux dormir. Hein. Moi, je m'occupe du reste. Il a signé tout de suite. Et là, on a bien fait les choses par rapport à ce que j'ai fait avant. Il s'est pris une formation. Moi, je me suis pris dernièrement une reformation SEO. Comme ça, c'était avec ce qu'on appelle le CPF,
Faut bosser le
compte de
renfort.
formation. Et lui, il est encore dans sa boîte, mais il a pris une formation ben, payée par le CPF. Et voilà, on se forme tranquillement et on avance tranquillement sur un projet où on
Plein
sait
de
ce qu'on fait.
personnes qui sont même pas au courant de ce qui leur revient de droit, qu'ils ont de suivre des formations comme ça pendant le. Plein de personnes ne savent pas ça. Pourtant, je crois que ça fait partie des cotisations, n'est-ce pas, que quand vous
Oui,
bossez.
tout à fait. Mais il y en a plein plus qui l'abandonnent. Même moi, je l'avais laissé tomber. Hein. Mais là, comme lui l'a fait, je me suis dit, ben, je vais la revoir. Et là, ils ont bien refait le compte en France. Le compte était un peu bizarre. J'ai vu que j'avais un peu d'argent. Je me suis dit, ben, je ne vais pas le laisser là. Et je l'ai utilisé. J'ai même rajouté un peu d'argent. Parce que ma formation était plus chère. J'ai rajouté un peu d'argent. Et voilà. Et je me rajoutais une formation SEO. Parce que SEO, je connais. Donc, bon, j'ai fait. Donc, voilà. Pour revenir sur le business, on a fait un grand bond. Donc là, j'ai eu 4 missions l'année dernière. Ce sont plutôt des startups. Donc, je fais quelque chose qui reste quand même indépendant. Donc, par rapport, comme je te dis, même si ça déplaît à mes proches et à ma femme, moi, je ne suis pas pour un CDI. Donc, CDI, ce n'est pas pour moi. Je le sais très bien. Donc, même quand des fois, je vois des postes CDI, j'envoie toujours consultant pour voir si ça passe. Mais bon, en général, les gens sont butés. Et donc, cette opportunité est arrivée. Je l'ai saisie. Ça s'est plutôt pas trop mal passé. J'aurais pu faire une meilleure année, mais j'ai appris. Hein, comme ça reste toujours un nouveau boulot. Et donc, ce que je faisais en porte-à-porte, maintenant, je le fais au téléphone. J'appelle des dirigeants et je leur propose mes services. Soit des fois, je fais la vente moi-même, soit des fois, je donne la vente à quelqu'un d'autre. Moi, je prends que le rendez-vous et je
Donc,
suis à la maison.
tu le préqualifies et puis quelqu'un d'autre
Voilà.
continue le truc. Et si tu sens que y a une faille, tu essaies de conclure toi-même.
Et actuellement, comme à cause de la crise, ça a changé. Eh bien, grâce à LinkedIn et à Sales Navigator, je fais quasiment plus de cold calling parce qu'il y a la personne qui répond. Et grâce
Ils
à
sont plus
LinkedIn,
disponibles quoi.
actuellement, tout le monde est là. Et actuellement, le business, ça fait un carton. Ça fait que ça. Tous les jours, j'ai des rendez-vous, je discute avec des gens et par LinkedIn parce que ben, heureusement qu'il y a LinkedIn, sinon je serais mort.
Ouais, c'est vraiment ouf,
Voilà.
c'est vraiment ouf.
Et tout le monde, et tout, et tout, et tout monde galère actuellement. L'activité de BizDev marche super bien. Et comme l'a dit en plus Fabien Grada dans l'émission, quand tu as une boîte startup, la seule personne qu'il ne faut pas virer, c'est le BizDev. Il faut continuer à faire le BizDev pour quand ça va repartir. Tu vois? Moi, ça m'est
C'est
resté.
tout
Je me dis,
bête
ah,
qui
les gars.
pense, c'est logique.
Tu vois, mais là, les gens, ils pensent pas, les gens vont essayer de virer les gens, mais la personne, il faut qu'il y ait une personne qui continue. Et moi, j'ai plein de gens qui me disent, Monsieur Henri, merci pour vos contacts. On va se rappeler dans 1 ou 2 mois. Parce qu'ils savent très bien que là, actuellement, c'est un peu dur pour eux, mais on maintient le business. Il y en a plein actuellement qui ont abandonné, qui baissent les bras. Non, non. Il faut continuer à faire le business. Il faut continuer à faire des contacts. Et heureusement, ben, actuellement, ouais, c'est plutôt une belle période pour nous. Et on va continuer, je vais continuer. Et puis, ça me permet, moi, voilà, d'avoir une activité qui est plutôt rassurante à domicile. Je ne sors pas, je ne perds pas 2 heures dans les transports. Et ça
Tu
me
peux
permet
développer
de.
des trucs en parallèle en même temps.
Et voilà, le monde a changé. On n'a plus besoin de, comme j'ai fait avant, sortir de quitter son boulot. Non,
Faire
si tu fais un
1h30 en
business.
métro pour aller au fin fond du bout de la France.
Ou sinon, prendre des risques à quitter sa boîte. Maintenant, tu peux devenir entrepreneur sans pas prendre de risques. Il faut juste prendre du temps. Tu prends moins de risques, mais tu prends du temps. C'est-à-dire qu'il faut dire à ta femme, à tes proches, bah, le soir, je vais pas regarder la télé avec toi. Je vais créer un actif, je vais faire quelque chose. Même si pour eux, ça n'a pas sens, parce que pour eux, prendre du temps, c'est gagner de l'argent. Mais nous, on n'est pas comme ça. On crée des projets, on ne sait pas si ça va gagner. On va peut-être mettre 1 an ou 2 ans, mais ça se peut que c'est comme une courbe. Au début, tu sais, là, c'est là un moment, hop, ça fait une grande flèche. Et voilà, c'est ça, c'est ce qu'on fait.
Excellent, excellent. Donc, je te propose, avant qu'on ne passe aux 10 choses qui ne ne demandant aucun talent. Enfin, 10 choses qu'on peut mettre en place comme ça sans aucun talent pour pouvoir réussir. Je te propose peut-être tu penses qu'il y a une question que j'ai oublié de te poser hein, sur ton parcours, quelque chose de peut-être crucial que tu aimerais rajouter avant qu'on ne bascule sur
Non,
la dernière
parce
partie du.
qu'on a fait 1 h 30 et si on repart, on va partir
Tour
pour trop
complet.
longtemps.
Ok.
Et j'ai pas envie de faire peur aux gens par rapport à mon parcours. Et
Ouais, je crois qu'on a déjà un bon, là, on a déjà un bon truc, là, un bon packaging de ton parcours. Très, très, très. C'est super, super intéressant. C'est une preuve que vraiment, l'échec, c'est une ressource que les gens n'exploitent pas assez. Donc, 10 choses. La première chose pour laquelle je suis super, 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 super d'accord avec toi. Donc, à chaque fois, je vais citer et c'est toi qui vas un petit peu développer. Être à l'heure.
Être à l'heure,
Un
t'as
micro.
bien vu, parce que moi je suis toujours à l'heure, je suis un peu
Yes.
chiant. Moi c'est même un défaut parce que j'ai ce qu'on appelle la phobie du retard, donc je suis toujours en avance. Des fois même un peu trop, donc des fois je galère parce que la nature des gens c'est être en retard. Mais voilà, quand tu es à l'heure et même avant l'heure, parce que comme me disait le directeur d'une franchise pour qui j'ai travaillé, déjà être à l'heure c'est en retard. La personne qui vient, t'as rendez-vous à 2 h, tu viens à 2 h, t'es en retard déjà. Il faut être là 1 h 55, 1 h 50, tu vois. Et en plus, tu donnes une meilleure image. Comme tout le monde est en retard, si toi, tu viens à l'heure, les gens vont te remarquer. Lui, il n'est pas comme les autres. Parce que tout le monde vient en retard. Tout le monde a une excuse. Ah non, j'ai raté le métro. Non, viens à l'heure en
C'est
avance,
un
ils vont
gros
dire
truc qu'on
lui.
reproche aussi beaucoup à la communauté afro en général, ce qui
Tout à
traîne un
fait.
petit peu.
Voilà, tout à fait.
Moi, c'est quelque chose que je dirais que j'ai beaucoup plus appris ça quand je suis arrivé en Allemagne, tu vois, la rigueur dans la ponctualité, la discipline, tu vois, sont des trucs. Être à l'heure, parfois c'est sur le point sur lequel on regarde, même si tu es compétent après, il suffit que tu arrives en retard pour que on annule tout le truc. On dit, ouais, c'était 10h05, c'était 10h, tu arrives à 10h05, c'est mort, au revoir.
Non, mais comme on dit, en plus, le temps, c'est de l'argent. Tu prends le
Ouais.
temps des gens, s'il n'est pas respectueux. Et souvent, quand tu mets en retard une personne, toute la journée, les gens vont être en retard. Parce que bah, tu vas prendre le temps sur les autres. Et
Ça va
donc, la
créer
personne va se
une
rappeler de
chaîne
toi.
comme ça de retard, sur
Et
toute la
ouais.
journée. Ouais.
Et donc, être à l'heure, c'est super important. Réellement, et c'est simple, c'est gratuit. Voilà, tout
Yes.
ce qu'on va dire là, c'est gratuit. C'est gratuit. Bah
Complètement.
oui.
Yes. Donc, je partage complètement. Donc, éthique de travail, deuxième point.
Bah, ça, c'est pareil. Ça vient par rapport à la discipline. Quand tu as une équipe de travail, ça se voit. On dit souvent travailler comme un chinois. Ou tu vois, c'est quand les gens voient ça, on sait trop bien que les gens travaillent à l'heure, mais si tu viens une demi-heure plus tôt, tu quittes une demi-heure plus tard et tu montres que tu as envie, mais qui n'a pas envie d'avoir une personne comme ça dans sa boîte? Moi, une personne qui m'appelle comme ça, qui fait des heures en plus, qui bosse plus, tu l'embauches, tu lui donnes des responsabilités. Voilà. Tu as bien entendu la phrase de comment il s'appelle? C'est Jordan. Le gars, c'est la star, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Et je me rappelle quand j'ai regardé ses vidéos. Il venait 6 heures avant le match pour faire des shoots et après le match, il shoot encore. Et Kobe a copié ce qu'il a
Kobe,
fait.
ouais, pareil.
Et donc, c'est la même chose. Tu dis, mais tu veux être bon, ben, il faut faire plus de boulot. C'est aussi simple que ça.
Clairement.
Et
Donc,
quand tu as, et puis, quand tu as une éthique, ça reste, c'est comme une habitude. Ça devient une discipline. Et après, dans tout ce que tu vas faire, tu vas être pareil.
Ouais, c'est clair qu'avec le phénomène d'effet cumulé, quand ça s'empile comme ça, après 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, c'est une courbe exponentielle en général.
Eh
Top.
oui.
La passion, on en
Bon,
parlait longuement tout au long de
on
l'épisode qu'on a développé. Hein.
en a parlé, en fait, c'est un truc qui est contagieux, quoi. Les gens le voient et quand tu vois que tu es passionné, voilà. Quand tu vois une personne passionnée devant toi, tu as envie de l'aider. Tu dis, mais le gars, il est possédé. Quand tu vois une personne qui est passionnée, moi, quand on me voyait jouer au basket, j'arrivais sur le terrain, je sais pas, dès que le soleil se levait, quoi. Et je jouais jusqu'à. Je mangeais même pas. Et les gens disent, mais lui, j'ai envie de jouer avec lui. Et voilà, et c'est pareil, quand tu fais, là on fait du podcast, on voit qu'on parle pendant 2 h, ça sent la passion.
Ça
La
se sent,
passion, c'est
ouais,
contagieux.
je vois pas le temps passer, pourtant c'est 2 heures.
Et voilà, et quand tu es passionné, et comme nous on écoute des podcasts qui font 2 h, mais des fois quand on sent le truc, voilà,
3 heures,
c'est...
4 heures, des podcasts de 5 heures, moi j'en écoute, quoi, tu vois. Je mets pause si je dois faire autre chose. Après je reviens, je continue, tu vois.
Et tu vois une
Mais plus
personne qui est
YouTube,
là,
faut oublier, je vais regarder un truc, je vais pas revenir dessus.
Et tu vois une personne qui sort un podcast qui parle comme ça, qui est fatiguée, qui n'a pas envie, mais tu zappes, tu dis, mais il a quoi? Il a un problème ou quoi lui? Tu vois, il faut la passion, c'est contagieux, c'est magnifique la passion.
Clairement. Donc, être coachable, c'est un gros
Ça
sujet. Hein.
c'est dur, c'est un gros sujet. Donc déjà, pour être coachable, il faut être humble. Et ça, c'est pas facile. En tant qu'entrepreneur, souvent, on est un peu égoïste, un peu prétentieux. Pas égoïste, mais on a un peu un ego un peu balèze, quoi. Et donc, il faut apprendre à fermer sa bouche et à dire, voilà, je connais rien. Surtout même quand tu. Mais quand tu entends même d'autres podcasts ou d'autres personnes qui ont réussi, souvent elles disent, voilà, même quand tu crois rien, tu connais rien. On n'est pas des dieux, on n'est que des humains et il y a toujours plus fort que soi. Et donc, moi, je commence le podcast, il y a des mecs qui ont créé 3 ans, 4 ans avant toi. Ben, quand tu peux être coachable et tu peux apprendre des autres, voilà, tu iras plus vite, tu gagneras du temps. Ou tu vas dire, non, je connais, non, j'ai pas envie. Non, non, tu fermes ta bouche et tu fais, c'est tout.
Il y a un truc que tu as formulé, tu as dit être prêt. Moi, je vois ça un petit peu comme être un opportuniste. C'est comme ça que moi, je vois ça.
C'est ça, en fin de compte. Hein, parce que souvent, quand tu je sais pas, je me rappelle cette phrase, tu vas peut-être me dire une citation anglo-saxonne. Je crois que c'était un président qui disait, ouais, quand tu vas couper un arbre, il ne faut pas juste venir que la hache la couper. Il faut préparer la hache, il faut la ciseler. Et ensuite, tu vas mieux couper. Eh ben, c'est pareil. Il faut, comme là, moi, je me lance sur Amazon. Eh ben, je me forme. Je forme mon frère. J'ai un coach. Et puis voilà, je me prépare à réussir. Tu vois, il faut être prêt, bien sûr, comme tu dis, pour saisir les opportunités. Donc, il faut être ouvert. Mais il faut être sûr de sa réussite. Donc, il faut donc préparer les actions avant et travailler, planifier sa réussite, on va dire.
Yes. Ouais, je valide complètement.
Oui, c'était Abraham Lincoln. Voilà, je cherchais Abraham Lincoln. Je dis, voilà, il faut. On te donne 6 heures pour abattre un arbre, donc tu prends le 3/4 du temps pour ciseler ton ta hache, qu'elle soit propre, et ensuite tu peux mieux couper.
Yes. Voilà. Donc, en faire toujours plus, délivrer plus. Ah non, comment on formule ça? C'est promettre c'est plus, délivrer promettre moins, délivrer plus. C'est comme ça que.
C'est un peu que je disais par rapport au travail. Moi, en tant que vice-dev, ben, je commence une demi-heure plus tôt et je finis plus tard. Et des fois, si je peux faire une heure, même là, dernièrement, ben, j'ai eu un mail le week-end. Je vais le traiter. Je vais pas me dire, ah, non, c'est le week-end. Non, moi, je bosse. Même le dimanche, s'il faut, je vais donner au maximum parce que je sais très bien que je vais avoir du retour. Comme dit, sans donnant qu'on reçoit. Et ben là, c'est pareil. Il faut te dire qu'on t'a donné une confiance. Fais le maximum. Et les gens vont voir que tu donnes le maximum.
Yes.
Donc, toujours, et en plus, en général, voilà, quand c'est comme ça, les gens ont toujours envie de retourner la faveur. Comme nous, on donne du contenu gratuit sur YouTube. À un moment ou à l'autre, les gens, ils vont dire, ah là, lui, il est tellement cool. Et moi, ça m'est arrivé. Des fois, je vais acheter un produit, je peux l'acheter directement sur le site. Je vais chez Patfield ou chez un autre, je vais cliquer son lien et comme ça, lui va gagner de l'argent. Ça ne me dérange pas, aucun problème.
L'effort.
L'effort, ça rejoint un peu tout ce qu'on a dit, mais voilà. Faut pas. Entre une personne, tu le sais, une personne qui réussit et une personne qui ne réussit pas, souvent, bah, c'est l'effort. Tu as la passion, mais souvent, la passion emmène l'effort. Hein. Il faut vraiment mettre des efforts. Faut pas se dire non, je vais me la couler douce. Et souvent, c'est l'erreur des business en ligne. Et moi, ça m'est arrivé. Hein. Je me suis dit, ouais, j'ai mon blog, il marche bien. Non, il faut faire plus d'efforts. Si tu veux vraiment être le meilleur, voilà, tu es obligé de faire des efforts et travailler plus que les autres. Comme a fait Jordan, comme on fait tous les grands. Et je peux même te donner un exemple à part. Je ne sais pas si tu aimes le foot.
Je regarde le foot, mais je ne suis pas non plus. J'ai pas le bonnet et l'écharpe qui va avec.
Disons qu'on a tous des exemples de gens, que, même dans le sport, en basket, qui avaient des plus gros talents et qui n'ont pas réussi parce qu'ils n'ont pas mis les efforts. Et moi, je te donnerai un ceux qui aiment le foot, Ronaldinho, qui est peut-être l'un des plus beaux joueurs des meilleurs de tous les temps, mais c'est un feignant. Et tu en as plein. En basket, moi, il y a des mecs qui, en apparence, semblaient mieux que Jordan. Mais il ne travaille pas. Et même, là, il y a un joueur qui jouait à LA, j'ai oublié son nom. Ah, il est revenu à LA, il a gagné avec Kobe. Et Kobe, il avait viré parce que le gars ne bossait pas. Le gars, il a du talent. C'est un pivot. Le gars joue bien. Dwight Howard, le gars est bien, mais il n'a pas bossé. Il a toujours dit, c'est un feignant. Et bah, automatiquement, bah, il a la carrière qu'il a. Il n'est pas mauvais, mais il n'a pas la carrière de Kobe, ni de Jordan, ni d'autres pivots. Voilà. Yes. Il faut des efforts.
Donc, il y a un autre point qui est plutôt, c'est pas un point qui est trop mainstream, tu vois, parce qu'il y a des personnes qui peuvent être naturellement bosseurs, tu vois, mais ils sont pas très très vigilants ou peu vigilants sur le point qu'on va citer tout à l'heure, parce qu'ils se disent que ouais, c'est pas forcément le gros focus, mais généralement ça rattrape, surtout avec le temps, avec l'âge, quoi. Après 5 ans, 10 ans, il y a quand même, ça rattrape en fait, parce que c'est quelque chose qui dépend du corps, c'est l'énergie.
C'est vrai, parce que l'énergie, on en a tous. Mais et moi qui aime bien, je t'en ai parlé avant, la santé, les gens ont toujours des excuses. Ah, je suis fatigué, je suis pas bien. Mais ils savent pas travailler sur leur énergie. Et c'est important parce que tout ce que je viens de dire avant, ça va avec l'effort et la passion. Bon, la passion, c'est un peu à part. Mais si tu veux donner des efforts, il faut que tu sois énergique. Et si tu n'as pas d'énergie, ben, travaille sur ton énergie. Mange mieux, dors mieux, fais ce qu'il faut pour avoir de l'énergie. Si tu peux être passionné, avoir envie de faire des choses, mais si tu n'as pas d'énergie, tu ne pourras pas les faire. Et c'est un élément important. Donc, il faut travailler sur toi et te dire comment je peux avoir plus d'énergie. Moi, personnellement, je fais le jeûne tous les jours, je mange bien, j'essaie de méditer. Ça, c'est un problème, j'ai du mal à méditer. Je fais méditer, je fais ma gratitude, je fais tous des éléments, douche froide, je fais tout ça qui vont me permettre d'avoir l'énergie. Parce que quand je suis au boulot, ben, j'ai besoin d'être à fond. Je ne vais pas le faire un truc à moitié. Tu fais le truc à moitié, tu ne vas pas réussir. Donc, l'énergie, c'est important. Là, actuellement, je suis avec toi, je suis déterminé, je veux que ce soit le meilleur podcast du monde. Voilà. Yes. Donc, je donne l'énergie.
Yes.
Et donc, ça, c'est un truc qui se travaille. Et c'est gratuit. Donc, tout ce qu'on a dit là, c'est gratuit. Et l'énergie, c'est pareil.
Yes. Pour l'avant-dernier point, s'il y a un entrepreneur que j'apprécie assez qui a développé ça sur un site à l'époque qui s'appelait le décodeur du non-verbal, le langage corporel, à ça, on peut rajouter d'autres éléments comme la rhétorique, la prise de parole, les neurosciences et tout. Tout ça, c'est corrélé. Mais le finish, à la fin, c'est toi devant une autre personne ou devant un public. Et qu'est-ce que tu as nous dit par rapport à ce point?
Ben moi, c'est facile parce que je viens de la vente. Et en porte-à-porte, c'est ce qui m'aidait. Comme je disais à mes vendeurs, le premier produit, c'est moi. Ce n'est pas le produit que j'ai en main, j'avais Canal+. Et là, pareil, j'ai autre chose. Je suis devant quelqu'un, ce qu'elle va voir, ce n'est pas le produit, c'est moi. Si je souris, si j'ai un langage corporel qui correspond, si j'ai un langage où je ne souris pas, et je n'ai pas la bonne tête, je ne regarde pas les gens dans les yeux, je regarde ailleurs, ben, personne ne va m'acheter. Donc, à moins que je sois une blonde au gros sein, tu vois. Si tu es quelqu'un qui n'a pas l'aspect, il faut être bien sapé. Il faut avoir un langage corporel qui indique que ben, tu as envie de faire vendre le produit, tu as envie de l'activité. Et donc, ça, pareil, ça ne coûte rien. Ce qu'on appelle, c'est, ça va aussi avec ce qu'on va, je pense, voir à la fin, c'est, c'est l'attitude. C'est pareil.
Tu es devant quelqu'un. Ça tombe bien, ça fait le pont. Donc, justement, l'attitude.
Voilà. Mais bon, pour revenir, après, on n'est pas obligé d'aller dans le fond, ce qu'on appelle la programmation neurolinguistique, mais il y a des choses qui montent. Donc, quand tu as une attitude, les gens vont dire, voilà, lui, c'est comme, voilà, essaie de dire à une femme que tu l'aimes et en fond de ta tête, tu mens. Des fois, ça marche, mais pas du temps, la meuf sait que tu mens. Elle sent que le gars, il n'est pas passionné, son langage corporel dit qu'il ne m'aime pas, en fin de compte. Il dit qu'il m'aime, mais quand je le vois, quand il me tient, il ne m'aime pas. Eh bien, c'est pareil, quand une femme t'aime ou que tu as. Tu ne peux pas dire un enfant, quand un enfant te tient, tu sens qu'il t'aime. Tu vois, il a la passion. Ben, c'est pareil. Moi, j'ai 3 enfants. Quand il y a un problème, je le sens. Parce que qu'est-ce qui se passe? Et donc, on croit souvent que les mots sont super importants. Pour nous, on est podcasteurs. Oui, on podcast, oui, parce qu'il n'y a que ça. Mais quand tu es en face des gens, ton corps va parler pour toi. Donc, faire attention.
Et pas que, même dans la tonalité, même dans comment est-ce que les espaces qu'on laisse, le silence, et tout, ça peut traduire aussi une certaine attitude. Ça peut traduire aussi... un message présupposé, tu vois.
Et ça, c'est gratuit et ça s'apprend. Toi, ça peut être tout simplement naturel. Tu es juste bon naturellement ou sinon, tu ne peux pas. Après, il faut juste faire attention parce que moi, j'avais appris la PNL et des fois, comme je suis de nature, des fois un peu parano, des fois, j'avais une personne devant moi qui se grattait le nez ou qui faisait un truc. J'analysais ce qu'on m'avait appris par cœur. C'est un peu de la psychologie. Et donc, des fois, tu as des gestes de gens. Tu dis, si tu lis trop des fois là, les gens, tu vas peut-être dans l'autre sens et tu vas te dire, ah non, lui, il est en train de penser à ça. Et personne ne peut penser ce que pensent les gens. Tu peux lire un petit peu les choses.
Moi, je pense que c'est un ensemble d'éléments. Hein. Enfin, tel que moi, j'appréhende le truc, je ne suis pas un expert du sujet, mais je pense que c'est un ensemble d'éléments qui vient servir en fait, à ton jugement au finish, tu vois. Si tu veux utiliser de la PNL, tu veux utiliser ton intuition, ta sensation, et c'est ensemble, c'est par rapport à tous ces éléments que tu prends justement une décision ou que tu fais une action, à mon avis, tu vois. C'est pas juste que la PNL, mais la PNL, c'est un élément bien distinct qui va te permettre d'identifier certains éléments qui vont se compléter à d'autres outils que tu vas utiliser, comme ton intuition ou toute autre chose, et à la fin, tu pourras prendre la décision peut-être la plus, entre guillemets, rationnelle, la plus... adéquate par rapport à la situation, par rapport à l'objectif que tu essaies d'atteindre. Quoi.
Mais surtout que moi, je te dis, je viens de la vente et en vente, on sait très bien, on dit, j'ai plus le terme précis, mais 90% ou 87% de la vente, c'est du non-verbal. C'est-à-dire que tu peux parler, dire ce que tu veux, mais les gens, ils vont te regarder toi. Donc,
ils vont regarder ton Sarkozy. Ok, top. Merci beaucoup Thierry. C'était vraiment... j'ai pas vu le temps passer. Peut-être avant qu'on termine... c'est aujourd'hui, on a cité plein de choses. C'est quoi ton obsession aujourd'hui?
Mon obsession, c'est ma santé, la santé de mes enfants, la famille. Réellement, moi, c'est vraiment le seul truc qui m'importe. Le reste, je n'ai rien à faire. et de réussir, parce que comme tu dis, toi, je suis entrepreneur depuis un petit bout de temps, même si j'ai plutôt changé un front d'esprit, parce que bah, toutes les galères m'ont montré que l'argent, c'est bien, mais c'est pas le plus important, même si on a besoin. Donc, c'est plutôt vraiment l'indépendance financière et puis me servir de tout ce que je viens de te dire, mes expériences positives et négatives pour réussir mes futurs projets. Donc là, sur mon projet Amazon, je le sens bien. Amazon, en plus, c'est une plateforme. Tu sais, des fois, il faut se dire qu'il faut aller sur les plateformes où ça marche. Donc, nous, on est sur le podcast. Amazon, c'est pareil. Je ne dis pas non au business en dur parce que tu vois, je fais un séminaire, mais en ligne, tout est à faire. Voilà, il y a tellement de choses à faire que voilà. Il y a plein de gens qui sont encore, tu leur dis, et c'est mort, il n'y a même pas 3 semaines, je dis Amazon, et personne ne connaissait pas. Je dis, quoi? Mais attends, tu ne connais pas Amazon, mais tu as un problème ou quoi? C'est-à-dire que le monde, il est ouvert, il y a plein de choses que les gens ne savent pas. Et donc, nous, on est là pour éduquer les gens par rapport au business, par rapport à mon expérience. Et donc, moi, mon but, voilà, c'est de réussir mes autres futurs projets d'entrepreneuriat pour aider d'autres entrepreneurs, pour aider les Guy et les Thierry qui ont 20 ans et qui ne veulent pas faire les mêmes bêtises que nous. Même si toi, tu as que 25 ans et tu n'as pas fait beaucoup d'erreurs, donc je suis content pour toi. Mais parce qu'on a discuté, donc j'ai vu que tu es très malin et tu te formes et tu écoutes les bonnes personnes et tu es bien entouré. C'est super important. Et donc voilà, mon but, c'est vraiment d'aider le maximum de gens comme moi. Voilà. Moi, si je pouvais éviter, j'aurais pu éviter tout ce que j'ai fait, même si j'ai pu éviter parce que j'ai lu beaucoup de livres et j'ai été formé. Mais il y a plein de trucs que j'aurais pu éviter, même si des erreurs, tu en feras toujours. Même quand j'écoutais même Kiyosaki qui vaut, je crois, 700 millions, il dit qu'il en fait toujours des erreurs. Mais bon, il y en a plein qui sont faciles à éviter. Donc, quand tu peux éviter, et moi, je ferai, si possible, avec mon podcast et le tien, éviter au maximum de gens de faire des erreurs comme le pack d'associés ou de faire les mauvais choix de business. Voilà. Mais bon, c'est juste moi, réussir ma vie personnelle, donc de santé et donc de famille, et puis aider les gens à réussir en tant qu'entrepreneur et investisseur. Voilà.
Excellent. Thierry, ce podcast s'appelle Débrouillard. Pour toi, c'est quoi un débrouillard?
Débrouillard, c'est une personne qui trouve la solution. Voilà, on lui ferme la porte, hop, il passe par la fenêtre. On lui donne pas d'argent, il trouve les moyens d'avoir de l'argent. Il n'a pas la santé, ben, il trouve les moyens donc, d'avoir une meilleure santé. Voilà. Il a un cerveau, il sait que il peut tout trouver. On n'utilise que 10% de son cerveau, ben, lui, il va utiliser 11, 12, 15% pour trouver la solution.
Excellent. Merci beaucoup Thierry. On voit les gens sur LinkedIn où est-ce que les gens peuvent aller pour en savoir plus?
Ils peuvent aller directement sur mon site hein, thierry-henry.fr et puis ils auront tout dessus ou sinon sur le podcast. Enfin, moi je suis un peu partout heureusement. Donc voilà, il n'y a pas de choix Instagram.
Les gens, comme à l'accoutumée, la meilleure façon de montrer que vous appréciez ce genre d'échange, c'est déjà d'aller rapidement sur les différents réseaux de l'invité, sur LinkedIn, sur son site internet pour dire ce que vous avez pensé de l'épisode. C'est très, très important. Et ensuite, de revenir, bien sûr, sur iTunes pour me laisser une évaluation de 5 étoiles. Sur le podcast aussi de Thierry, on va mettre le lien aussi en description. Très, très important. Ça nous permet d'être mieux référencés, de monter dans les rankings, de toucher encore d'autres personnes. Merci à tout le monde. Merci et à très vite. Ciao, ciao.
À bientôt. Ciao.